With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Profidélité, je suis très très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Punchline sur CNews. On est ensemble, vous le savez, pendant 2 heures en direct jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce samedi soir avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef Figaro. Bonsoir.
Bonsoir.
Marcel Steinville, rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles. On n'a que des red-chefs hein, ce soir, ça rigole pas. Hein.
Bonsoir.
Karim Zeribi, rédacteur en chef.
Bonsoir.
Consultant CNews.
Consultant chef.
Consultant chef, bonsoir. Alors, attendez, François Bersani. On peut mettre chef ou pas
pour on peut parole mettre parole chef, ouais.
Ouais, parole chef. Syndicat, unité, SGP, police, FO, IDF, Île-de-France. On est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Dans un instant, on prendra la direction de la Porte de la Villette avec cette situation concernant le crack à Paris, cette mobilisation juste derrière Augustin Donadieu. De l'énervement, de la colère, de la frustration, beaucoup, vous l'entendrez dans un instant. Juste après, l'essentiel de l'info, c'est avec Yann Effelé.
L'Élysée veut revoir le modèle de lutte contre les incendies. Emmanuel Macron réunira le 14 octobre l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. L'objectif, réfléchir à un nouveau modèle de prévention des feux de forêt. Parmi les mesures sur la table, l'obligation pour les employeurs de salariés sapeurs-pompiers volontaires de les laisser partir pour lutter contre les incendies. Après 2 ans d'absence, la technoparade fait son retour à Paris. Le plus grand défilé électro n'avait pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Retour cette année avec 11 chars pour représenter toutes les déclinaisons de la musique électronique, de la techno à la house en passant par la trance et le hardcore. La Maison-Blanche qualifie de catastrophique une décision de justice en Arizona sur l'avortement. Le porte-parole de la présidence américaine condamne les conséquences potentiellement dangereuses et inacceptables de la réactivation d'une loi qui interdit presque totalement l'avortement. Si cette décision se confirme, le personnel de santé risquera jusqu'à 5 ans de prison s'il remplit son devoir de soins. Dernier jour avant les élections législatives en Italie, l'extrême droite espère une victoire historique. Giorgia Meloni, à la tête du parti Fratelli d'Italia, est donnée à près de 25% des intentions de vote.
L'incompréhension, la frustration et très souvent aussi la colère. Un an que le camp de crack a donc quitté le Jardin des Halles dans le 19e arrondissement de la capitale, direction de la Porte de la Villette et Aubervilliers. Situation qui était, je vous le rappelle, censée être provisoire, sauf que le provisoire dure déjà depuis 365 jours. Conséquence, eh bien, cette nouvelle journée, cette nouvelle après-midi de mobilisation, c'est en ce moment. Bonsoir Augustin Donadieu, vous êtes sur place pour CNews. Augustin, des riverains qui ont le sentiment d'être totalement déconsidérés, des riverains et des élus aussi.
Effectivement, des riverains désespérés, j'ai envie de vous dire. Cette mobilisation des riverains du quartier de Pantin d'Aubervilliers et du 19e arrondissement de Paris. Une manifestation intergénérationnelle, à la fois des enfants, des personnes plus âgées, des travailleurs. Tout le monde réuni ici pour la même cause, faire évacuer ce fameux square Forceval où se sont installés les consommateurs de crack. C'était il y a 365 jours, il y a un an. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre qui leur ont dit « Vous inquiétez pas, ça va durer que quelques jours ». 365 jours plus tard, ils sont toujours là. D'ailleurs, suivez-moi, on va aller rejoindre Khalid et Elisabeth. Elisabeth et Khalid. Alors, Elisabeth a dû partir écouter actuellement le discours qui est prononcé juste au pied de ce mur de la honte, hein, que vous verrez dans quelques instants. Bonjour Khalid.
Bonjour.
Vous êtes commerçant et c'est très compliqué pour vous, cette situation.
C'est super compliqué. On avait déjà un problème entre les vendeurs de Marlboro, les pickpockets. En plus de ça, on se retrouve avec des toxicos, des crackman, etc. Ça devient super, super compliqué. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'espace d'un an, on a perdu à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Là, je suis peut-être dans l'obligation de licencier des personnes dues à ce problème-là. Et de pire en pire, ça ne s'arrête pas. On a l'impression qu'on est lâché par les autorités. Il n'y a personne autour de nous et on se sent vraiment seul, en fait.
Qu'est-ce que vous réclamez concrètement aux autorités, justement ?
De l'aide, tout simplement, qui viennent voir ce qui se passe sur le terrain tous les jours. Il ne se passe pas un seul jour, on n'a pas un incident dans notre établissement.
Oui, parce que vous me parliez d'insécurité. Concrètement, ça se traduit par quoi, cette insécurité ?
L'insécurité, c'est racolage auprès des clients. Les clients, ils ont peur de venir. On avait beaucoup de familles qui se déplaçaient. Moi, je suis restaurateur, on avait beaucoup de familles qui venaient. Les familles ne viennent plus. Des filles qui sortaient avec des groupes de 3 ou 4 filles qui venaient chez nous, elles ne viennent plus. Elles se sentent en insécurité. Dès qu'il y a une voiture qui est arrêtée, on leur on colle à la voiture, on colle aux gens, c'est du racolage permanent et tous les jours journalier, ça devient vraiment catastrophique pour nous.
Alors, on va vous montrer sur les images de Vincent Burgas ce mur de la honte qui a été érigé au lendemain de l'évacuation de il y a 365 jours de ces consommateurs de crack. Khalid, qu'est-ce que vous en pensez de ce mur qui devait normalement résoudre le problème ?
Il résout rien du tout parce que il passe de l'autre côté du trottoir, il passe par l'autre côté du rond-point et il résout rien du tout. Au contraire, ils sont plus cachés qu'autre chose en fait. Ils sont plus cachés, ils font ce qu'ils veulent. C'est de pire en pire. Sincèrement, il résout rien du tout ce mur-là.
Dernière question, Khalid, merci à vous en tout cas d'être avec nous sur CNews. Il y a une réunion de prévue avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui vient tout juste d'être nommé. C'est une réunion qui a lieu dans quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce que vous en attendez ?
J'espère qu'ils vont nous résoudre, qu'ils vont les déplacer, qu'on essaie de les c'est pas un lieu où ils sont, puisqu'on est déjà touché déjà. La zone, elle est déjà touchée, comme je vous l'ai dit, par les pickpockets, par les vendeurs de Marlboro, etc. Et en plus, ça, c'est vraiment la petite goutte d'eau qui fait, du moins la goutte d'eau. C'est ce qui fait vraiment déborder le vase, quoi.
Et le plan crack prévoirait éventuellement la création de salles de consommation, des salles encadrées. Votre réaction en dit long, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vraiment pour moi, franchement, ça on dit qu'il n'y a pas de solution. Si on en arrive là, c'est qu'il n'y a pas de solution qui va être trouvée. Il n'y a rien d'autre qui va être trouvé. C'est nous qui allons encore une fois de plus subir plutôt qu'autre chose.
Merci beaucoup, Khalid. Bon courage à vous. En tout cas, vous le voyez ici, forte mobilisation cet après-midi. Manifestation qui est partie de la mairie de Pantin. Quelques centaines de riverains sont venus ici se mobiliser justement pour réclamer à la fois l'évacuation de ce square, mais également un accompagnement médico-social de ces consommateurs de crack qui eux aussi, sont les victimes malheureusement de ce trafic.
Vous restez avec nous, bien évidemment, et n'hésitez pas à nous faire vivre effectivement ces nombreux témoignages et ce désespoir, on le comprend, de ces nombreux riverains, commerçants et bien sûr les maires. On écoutera dans un instant la maire d'Aubervilliers ou encore le maire de Pantin, j'imagine, à votre micro. N'hésitez pas à nous rappeler peut-être cette image en direct. On va demander à Vincent Burgas de nous remettre cette image du mur de la honte, comme il a été surnommé. On va découvrir ces images, toujours en direct, effectivement, du côté de la porte de la Villette et de Pantin. François Bersani, on a entendu ce témoignage édifiant, et c'est pas la première fois, mais là, ça fait quand même 365 jours, ça fait un an. Ce mur de la honte, là, ça va laisser des traces.
On assiste
dans ce quinquennat, deuxième quinquennat Macron.
Oui, on assiste là, Patrice Boisfer, à une forme de passivité des autorités. Alors, tout d'abord, on a eu le droit... aux échanges de ping-pong entre la mairie de Paris, puis maintenant les mairies des communes où on a déplacé le problème, avec également les conflits entre le préfet de police et la maire de Paris. On a eu après le ministre de l'Intérieur qui s'est jamais véritablement prononcé sur ce sujet. Et moi, à comparaison...
Ah bah là, ça y est, il s'est prononcé, hein.
Oui, enfin prononcé, oui.
Ah, il s'est prononcé, il a mis la pression, hein.
Oui, alors, oula.
Laurent Nunez a un an.
Oui, alors voilà, donc c'est des incantations, c'est des promesses de moi, ça. Comparaison n'est pas raison, mais ça me fait passer au problème à l'époque de Calais, où on s'était amusé, je mets des guillemets, à déplacer de la jungle de Calais à Grande-Synthe, etc.
Alors, et c'est ce que demandent les habitants, vous avez entendu, hein.
Oui.
C'est ce qu'a dit l'habitant à l'instant. Il a dit, on espère qu'ils vont être déplacés, pas que le problème sera réglé.
Le jeu de bonto, Patrice, ça ne règle rien. Alors, soit on fait du jeu de bonto, et puis on peut aussi proposer d'aller les mettre dans le Cantal, dans la Creuse, puisqu'apparemment le président Macron cherche à densifier les déserts ruraux. Mais on ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond, d'abord, c'est un problème de délinquance. Il y a des réseaux de trafiquants de crack, donc ça c'est un délit, hein. Donc il faut traiter la partie délit. Il y a des usagers jusqu'à présent, enfin je sais pas, quand je me suis réveillé ce matin, l'usage de stupéfiants était encore interdit en France, et donc on ne traite pas non plus, parce qu'on se dit toujours, attention, c'est aussi un problème de thérapeutique, c'est un problème sanitaire, mais on a affaire quand même à des délinquants, soit qui usent, soit qui trafiquent des stupes ou qui revendent. On a une forte corporation de Sénégalais qui sont identifiés, qui sont en plus souvent en situation irrégulière. Donc on ne traite pas le sujet de délinquance, on ne traite pas le sujet immigration irrégulière qui permettrait peut-être déjà d'en enlever, non pas de les déplacer dans la commune d'à côté, mais de les reconduire éventuellement pour tous ceux qui sont sans titre. Enfin, en tout cas, on a une forme de passivité.
On les connaît, ces réseaux, si ça prend autant de temps, c'est qu'on se dit qu'il faut remonter toute la filière.
Non, c'est que jusqu'à présent, on s'est repassé le bâton merdeux, on va dire. Et puis, la mairie dit c'est à la préfecture dit c'est à la mairie dit c'est au ministère, et puis c'est au gouvernement. et puis en fait c'est la responsabilité de tout le monde, donc du coup de personne. Donc tant qu'on ça c'est des petits coups dans la fourmilière, on les déplace de commune en commune, on fait un mur, je sais pas où est-ce qu'on va les projeter après, les décentraliser après, mais on règle pas le problème de fond. Il y a des délinquants. Il faut traiter le phénomène de délinquance. Il y a l'immigration irrégulière. Il faut redonner un confort de vie à cette population. Moi, je me mets à la place de ces habitants qui, comme il disait, le fameux Khalil ou Khalid disait qu'il y avait déjà la délinquance normale, enfin normale, si on peut qualifier de délinquance normale sur ce secteur. Mmh. Mais quand vient se rajouter ce fléau, mais j'ai l'impression que depuis, il y a une espèce de passivité, oui.
Et cette effectivement pancarte juste. Sur ce mur, on va le voir encore
une fois. Et encore une fois, je préfère préciser, c'est pas une responsabilité de la police. Ouais. La police, si on lui donne des instructions claires, si on lui donne des instructions fermes, ils vont faire ce qu'on leur dit. Jusqu'à présent, nous, nos collègues, on ne nous a pas donné d'instructions d'aller traiter le phénomène. Mais traiter, c'est pas déplacer sur la commune d'à côté.
Karim Zeribi, je me retourne vers vous. Vous savez quoi? Il y a un an, pile poil, je me souviens, vous étiez là. À cette même place. C'était il y a 365 jours.
Il y avait un an de moins.
Et vous savez quoi? Je me souviens même, c'était un vendredi. Je m'en souviens parfaitement. Le mur n'était pas encore construit. Mais il commençait à être construit. On voyait que ça se faisait parpaing après parpaing. Et on trouvait ça déjà terrible. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Un an après, le mur est toujours là. Et rien n'est arrangé. On se dit que c'est complètement fou.
Moi, j'irai au-delà de ce qu'a dit François Bersani. Ce n'est pas de la passivité. Ça symbolise l'impuissance du régalien dans notre pays. Le régalien sur trois dimensions. Le régalien, pour moi, la santé, c'est du domaine du régalien. Sur le plan sanitaire, on est impuissant. On ne sait pas traiter le sujet. Sur le plan sécuritaire, on est impuissant.
Je crois que l'ARS est sur le dossier. Hein. Mais bon.
Sur le plan judiciaire, on ne traite pas le sujet. Ces trois piliers, aujourd'hui, on ne les a pas activés. On est dans une forme d'impuissance. Mais comment voulez-vous que les citoyens croient en l'État, à la puissance publique, quand ils vivent ce qu'ils vivent là? Les femmes ne peuvent pas sortir sans être accostées. C'est Khalil qui l'a dit, et Aguichi en permanence. Les vendeurs de cigarettes à la sauvette qui étaient déjà là, une situation qui était déjà catastrophique dans ce quartier avec des pickpockets, des sacs et des colis à l'arraché en permanence. Et là, de surcroît, on rajoute le problème du crack.
C'était déjà pas assez compliqué.
Et on dit aux habitants, souvenez-vous, puisque vous nous parliez il y a un an, qu'on leur avait promis que ça n'allait durer que quelques semaines.
C'était provisoire.
365 jours après, on est encore là. C'est une honte. C'est une honte, ça se passe à la capitale, et ça serait autant une honte si ça se passait dans une province. Oui. Mais franchement...
Il me semble aussi que les autorités avaient dit que si on a mis effectivement ce camp dans cette zone, c'est parce que la zone était, alors pas dépeuplée, mais en tout cas moins peuplée.
Non, c'est scandaleux. Cette zone,
elle est
déjà frappée par de multiples problèmes sociaux et sécuritaires. Ouais. On rajoute de la misère à la misère, on rajoute des problèmes aux problèmes. Mmh. Franchement, c'est se foutre de la gueule des gens. Il y a des sous-citoyens dans notre pays. Il y a une France à deux vitesses, à trois vitesses, faut-il le croire? Ben on va finir par le croire. Il y a des zones qui n'intéressent pas. Donc, et honnêtement, c'est l'impuissance du régalien, donc ça nous fait mal. Ça fait mal à la République, ce qui se passe là. Parce que moi, je me mets à la place des habitants. Les habitants vivent l'enfer, l'enfer au quotidien. C'est scandaleux. Je ne sais pas où est le ministre de l'Intérieur, mais c'est là qu'il aurait dû être aujourd'hui.
Alexandre.
Non, je partage ce qui a été dit par Karim. Vous posiez la question, est-ce que ça va finir par être réglé? Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on a déplacé le problème dans une zone où il y a déjà beaucoup de problèmes et on se dit, bon, c'est pas grave, ces habitants-là...
Exemple, il va être réglé. Hein. Il y a les JO bientôt. Il y a le Mondial. Donc ça va être réglé. Hein. À un moment, ça va être réglé.
Alors, ça va être déplacé peut-être encore
plus loin. On est d'accord.
Ça va être déplacé. Effectivement, c'est déjà une zone qui a beaucoup de problèmes de sécurité. Et je trouve que le symbole du mur... Et assez terrifiant. On a beaucoup, nos hommes politiques ont critiqué Donald Trump parce qu'il faisait un mur à sa frontière. Nous, faute de maîtriser nos frontières, on est obligé de faire des murs à l'intérieur même de nos villes. Et on peut se dire que de déplacement en déplacement et de problème en problème, c'est peut-être demain toute la France qui va être dans cet état-là et qu'on va voir les murs se multiplier. Donc c'est très très inquiétant. Mais c'est la question, c'est effectivement l'impuissance de l'État, et je pense que ce qui pêche là, c'est la question de la justice. En réalité, les craqueurs devraient être enfermés, ils menacent la sécurité des gens, il devrait y avoir une injonction de soins, ils devraient être en centre,
et on en parle.
En centre fermé. Là, la justice estime que c'est leur liberté individuelle de se soigner ou pas. Peut-être qu'on n'a pas les moyens dans les prisons d'enfermer dans les bonnes conditions.
Justement, Alexandre,
où il est l'échec.
On en parle avec François Dagneau, sur le terrain, effectivement, le maire du 19e arrondissement. Bonsoir, monsieur le maire. Merci beaucoup de réagir en direct sur le plateau de Punchline sur CNews. Merci encore de nous avoir accordé ces quelques minutes. Est-ce que les habitants de Pantin, d'Aubervilliers et du 19e arrondissement sont des citoyens de seconde zone?
En tout cas, ils revendiquent d'être traités à égalité et qu'on leur réserve la dignité dont tous les habitants et tous les citoyens de ce pays ont besoin et sont en droit d'attendre. Il y a un an, effectivement, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de l'époque ont expliqué que puisqu'il n'y avait pas d'habitants du côté de la porte de la Villette, il était possible de déplacer sans aucun dialogue préalable et sans aucune constatation un camp de crack à ciel ouvert avec le deal, le trafic et les consommateurs. Depuis un an, c'est une catastrophe qui s'alourdit jour après jour. Et depuis un an, chaque jour de plus est un jour de trop. Ça ne peut pas durer. Et la mobilisation massive des habitants de Pantin, d'Aubervilliers et du 19e arrondissement est là pour le rappeler. Ça ne peut pas continuer. Et il faut que ça bouge et très vite. Je voulais dédier ce rassemblement et cette mobilisation aujourd'hui à un vieux monsieur de 92 ans qui est aujourd'hui entre la vie et la mort, qui a été agressé le 9 septembre dernier dans le hall de son immeuble dans le 19e arrondissement par un consommateur de crack qui l'a suivi, agressé, fracture du bassin, double hémorragie interne. Et voilà, cette victime-là, la première depuis un an, c'est celle de trop, c'est celle qu'on espérait éviter. Et c'est ça qui doit vraiment alerter tout le monde sur l'extrême gravité de cette situation et sur l'extrême urgence d'y mettre un terme dans les conditions de dignité et de respect de toutes les personnes en cause, les habitants, mais aussi les consommateurs qui sont des malades, qu'on ne peut pas laisser entre les mains des trafiquants et qu'on doit aider à sortir de cet enfermement épouvantable qui est leur addiction au crack, cette terrible drogue.
François Dagneau, quel est le plus délicat, le plus compliqué à gérer? Est-ce que c'est le quotidien justement avec ces agressions? Vous venez de parler effectivement de l'agression terrible de ce nonagénaire, ou est-ce que c'est aussi vos rapports avec les autorités? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, un an après, vous arrivez à vous faire entendre? Est-ce que vous êtes tout simplement dans la boucle?
On a marqué des points et la mobilisation des élus, des collectifs d'habitants depuis un an a permis de faire bouger quelques lignes, mais ce n'est pas du tout à la hauteur du sujet. Et depuis un an, la situation objectivement ne s'est pas améliorée. Il faut donc passer à la vitesse supérieure. Nous serons reçus avec mes collègues maires de Pantin, d'Aubervilliers, à notre demande prochainement par le préfet de police de Paris, le nouveau préfet de police, M. Nunez, qui a déjà manifesté une oreille plus attentive et plus bienveillante que son prédécesseur ne l'avait jamais fait. J'ai eu des contacts avec le préfet de région parce que nous avons besoin de mobiliser tous les partenaires pour les solutions à mettre en place, bien sûr pour protéger nos concitoyens, bien sûr pour tarir et lutter contre le trafic, mais tout autant et presque aussi pour développer des réponses médico-sociales. Les personnes qui sont dans cette addiction sont évidemment en grande souffrance, sont en danger, elles représentent un danger pour tous ceux qui vivent autour d'eux. Et donc, on a besoin de réponses en termes de santé publique et de mettre fin à la concentration de cette situation dans ces quartiers. Et reconnaissons que nulle part ailleurs, on aurait toléré aussi longtemps une situation de cette ampleur et de cette gravité.
Monsieur le maire, elle est terrible cette image, bien sûr, vous n'avez pas votre retour. On vous voit devant ce mur qui a été érigé il y a tout juste un an, avec une symbolique qui est terrible.
Une symbolique est terrible qui marque la fermeture et qui marque la frontière. On est dans les quartiers qui sont forts de leur ouverture au monde, qui sont des quartiers de mixité sociale, qu'on a essayé et plutôt réussi ces dernières années à renforcer. Et là, on voit bien que la concentration dans ces quartiers de toutes ces formes de précarité et de violence a pour effet aussi d'emmurer chacun dans son chez-soi et de renfermer tout le monde et de faire reculer la mixité et la rénovation de ces quartiers. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans la mobilisation de ces riverains, de ces citoyens, il y a une exigence d'égalité de traitement, une exigence de justice sociale, quelque part, et de justice territoriale, et une exigence de dignité pour tout le monde, parce qu'on ne peut plus vivre dans la dignité quand on est tous les jours dans sa vie quotidienne confronté à la peur et à la déchéance des personnes qui sont dans un état psychique, sanitaire et physique tout à fait épouvantable.
Merci pour ces réactions. Merci pour cette réaction en direct. François Dagneau, maire du 19e arrondissement, et à titre personnel, 25 ans après, puisque je vous ai croisé il y a 25 ans, je suis un enfant du 19e arrondissement.
Absolument.
Je vous souhaite, à
titre
ravi personnel,
de vous entendre.
Vous remercier, monsieur Dagneau. Vous
n'étiez
pas encore maire à l'époque. Merci à vous. Et bon courage, bien sûr, pour cette mobilisation. Et pour cette
monsieur Boisfer. Merci infiniment.
Manifestation. Merci à vous, monsieur Dagneau. Raphaël Steinville, ne vous a pas encore entendu sur cette question, sur ces gens qui se mobilisent, qui sont désespérés, le disait Augustin Donadieu, qui se sentent aussi parfois déclassés.
On disait que ça faisait un an que le problème a été délocalisé dans ce quartier de Paris. En fait, ça fait 20 ans que ça existe.
Et moi, Stalingrad, ce qui m'inquiète, 19e, moi j'ai connu, hein, je peux vous dire.
Exactement. On a parlé des jardins d'Éol, maintenant ça a été délocalisé.
C'était l'héroïne avant.
Ce qui est terrifiant, c'est que aujourd'hui, comme simple réponse, on a des promesses faites par Gérald Darmanin et le nouveau préfet de Paris, Laurent Nunez, qui nous explique que dans un an, ce problème sera réglé. Mais pourquoi attendre encore un jour de plus? Pourquoi ces toxicomanes et ces trafiquants de crack ne sont-ils pas dès demain arrêtés, pris pour ceux qui ont besoin de soins et d'être placés en centre fermé, ne le sont-ils pas pour ceux qui trafiquent? Pourquoi n'y a-t-il pas des opérations? C'est-à-dire que pourquoi ce temps encore infini, notamment pour ces habitants qui aujourd'hui manifestent? Ça fait un an. Et on leur dit ça va être réglé dans un an. Mais comment peuvent-ils supporter ça? Moi, c'est ça que je trouve sidérant. C'est cette espèce de temps qui se dilate pour les pouvoirs publics, mais pour les habitants, pour tous les riverains. Chaque minute, chaque heure qui compte, c'est un enfer qui se poursuit avec des risques. Le maire du 19e évoquait cette agression sur ce non-agénaire.
92 ans.
C'est complètement fou. Et nous, on assiste à spectateurs, on commente. Mais comment on peut commenter ça encore pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans?
Je considère que la famille de ce non-agénaire, comme tous les autres qui sont agressés dans ce contexte, devraient porter plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger. Je suis désolé. Je veux dire, autant un acte de délinquance peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, effectivement, je veux dire, ça peut arriver. Là, j'ai l'impression qu'on crée un écosystème pour que la délinquance puisse produire ses effets les plus désastreux. Donc, moi, je suis désolé de vous le dire. Il y a non-assistance en personne en danger de la part de l'État, de la puissance républicaine. Encore une fois, on nous dit il y a des craqueurs, il y a des gens qui consomment du crack. Oui, d'accord, ils consomment du crack. Ils sont plus conscients. Injonction thérapeutique. On les met dans des hôpitaux fermés. Il y a des sans-papiers qui sont des dealers. Centre de rétention, si on ne peut pas les renvoyer directement, mais au moins qu'on les mette hors d'état de nuire. Et puis ceux qui sont en situation régulière, c'est la case-prison. Après, on nous dit qu'il n'y a plus de place. Excusez-moi, il y a des priorités. Il y a des gens qui sont en préventive aujourd'hui dans les prisons françaises. Plutôt que de mettre des gens en préventive qui sont présumés innocents, mettons des vrais délinquants donc, qui vendent du crack dans ce quartier-là. C'est scandaleux. On n'a pas envie de traiter le sujet. Il n'y a pas de volonté politique. C'est ça la vérité.
Trop, c'est trop. C'est un petit peu le mot d'ordre, hein, Augustin Donadieu. Effectivement, du côté de la porte de la Villette et du côté d'Aubervilliers et de Pantin.
Oui, je peux vous dire qu'ici, la mobilisation est assez impressionnante, hein, puisque derrière nous, il n'y a que des riverains du 19e arrondissement de Pantin et d'Aubervilliers, comme Marie. Marie qui habite de l'autre côté de ce mur de la honte, côté Aubervilliers. Bonjour Marie. Vous me disiez tout à l'heure qu'au quotidien, c'est insupportable.
Le quotidien est très grave. Là, je dis plus soignez-les, c'est dégagez-les. Là, Monsieur Darmanin et même Monsieur Macron est un petit peu responsable de cette situation. Là, il y a 3 mois, je suis seule sur mon palier, je suis à la retraite, donc les gens travaillent. Je suis au sixième étage. Et une craqueuse, une blague, arrive. Je vais pour sortir pour aller voir mon médecin. Il était 14h30. Le poing levé, elle allait frapper à ma porte. Surprise, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu dégages, tu n'as rien à faire dans l'immeuble. » Et elle me répond « Argent, argent », en me regardant fixement. Là, elle avait beaucoup de monde dans sa tête. Et une fois là, je lui dis « Il n'y a rien du tout. Je vais pour fermer ma porte, j'essaye de rentrer. Elle met le pied dans la porte pour ne pas que je ferme la porte. Une fois là, qu'est-ce que j'ai fait ? Excusez-moi, mais moi j'ai pris une canne, j'en ai mis un coup sur la figure. » Elle a été dégagée sur la porte du voisin d'en face et j'ai pu fermer ma porte. Mais je me dis, là, c'est une femme. Si ça avait été un homme, je serais peut-être les bras en croix parce que mon neveu et ma nièce ne me téléphonent pas tous les jours. Les voisins ne viennent pas me voir non plus tous les jours. Ils auraient pu squatter l'appartement, faire ce qu'ils voulaient.
Vous avez peur au quotidien ?
Oui, j'ai eu peur. Là, pour la première fois, j'ai eu peur parce que je ne pensais pas qu'ils venaient comme ça dans les immeubles et voire dans les appartements. Ça aurait été même des enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont seuls dans les appartements, qui vont voir les copains et qui sonnent. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils seraient rentrés chez eux.
Et quel est votre sentiment ? Est-ce que vous vous sentez abandonné, soutenu, seul ?
Non, complètement. Là, c'est... Puis en plus, là, ils sont de plus en plus agressifs. De plus en plus agressifs. Et c'est là où il y a danger. C'est là où il y a danger. Parce qu'avant, bon, c'était la manche, mais ça se contentait de ça. Maintenant, c'est carrément l'agression. Si vous ne leur donnez pas, ils vous agressent. Violemment. Et là, ça s'est passé pour un voisin qui habite au rez-de-chaussée au 1, rue Henri Barbusse. Ils sont venus à 3 en pleine nuit chez lui. Ils ont dévissé les volets métalliques. Ils ont carrément cassé le double vitrage. Ils sont rentrés chez lui, dans la chambre de la gamine.
Il y a un an, vous vous souvenez de cette évacuation du jardin des Halles, de ce mur, juste derrière la caméra de Vincent Burga, ce mur de la honte, enfin, du moins celui que vous appelez le mur de la honte. Vous aviez espoir à ce moment-là que ça change ?
Quand ça s'installe, on ne sait jamais quand est-ce que ça repart, c'est clair. Pour moi, il y a eu des manifestations, mais ce n'est pas les manifestations qui vont changer. Par contre, ce qui va changer, c'est que les gens en ont assez. Et là, voyez-vous, il y a la semaine dernière, il y a eu un contrôle avec M. Numez et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus sur la dalle derrière chez nous. Et ils ont carrément monté dans les immeubles, en crachant, en frappant les gens, en tout comme ça.
On comprend bien
les gens,
que...
Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Oui.
Eh bien, ils sont sortis de leur appartement avec des marteaux, avec des matraques.
On comprend bien que ça dégénère et que votre quotidien est très compliqué. Merci beaucoup Marie. En tout cas, cette manifestation est en train de se terminer ici.
Le gouvernement fasse quelque chose.
Voilà, le gouvernement, vous le souhaitez qu'il fasse quelque chose. Peut-être que le message sera passé. Cette manifestation, vous le voyez sur les images de Vincent Burga, est en train de se terminer. Ces riverains sont encore pleins d'espoir pour certains, d'autres sont désespérés. Une réunion avec Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, est prévue dans quelques jours.
Merci beaucoup Augustin Donadieu pour CNews. Merci effectivement pour l'animation de ce direct pendant cette première demi-heure. Les images également de Vincent Burga. Merci à lui. Vous en avez marre d'entendre que fait l'État, surtout que fait la police ? Ça vous énerve, vous ?
Je pense que les habitants de ce quartier ont bien compris que la responsabilité n'est pas du camp de la police nationale, en tout cas que ce soit du commissariat du 19e, du 18e, de d'Aubervilliers et autres. C'est une question beaucoup plus transversale, donc des pouvoirs publics dans leur ensemble, puisque les policiers, eux, font partie du corps d'encadrement d'application. Ils appliquent les consignes qu'on leur donne. Si on ne leur donne pas les consignes et de faire des opérations, donc en effet, comme je le disais tout à l'heure et comme Raphaël le disait, c'est pas très compliqué. On doit traiter en même temps le volet judiciaire. À chaque fois qu'il y a une commission de délit et on sait qu'il y a du trafic de stupéfiants, on sait qu'il y a de l'usage de stupéfiants, c'est toujours un délit, il faut le réprimer. Il y a la partie thérapeutique, il y a la partie aussi lutte contre l'immigration. Donc ça, c'est des choses qu'on sait traiter. Le tout, c'est qu'il faut vouloir le faire. Et ça, c'est une question de priorité. Il faut quand même savoir qu'il y a moins de 15 jours, le ministre de l'Intérieur a rassemblé tous les patrons de sécurité publique de France, tous les directeurs départementaux, elle leur a donné un cap précis en disant à partir d'aujourd'hui, vous devez mettre à pied des patrouilles de police partout dans tous les commissariats de France et vous devez les bloquer une demi-journée sur un marché pour faire des cafés-rencontres avec la population des marchés. C'est la fameuse visibilité, les points de visibilité qui reviennent comme avait créé Nicolas Sarkozy. Il faut aussi bloquer des policiers dans les centres commerciaux. Bon bref, dans des lieux qui ne sont pas forcément les plus criminogènes. Mais au lieu de bloquer des policiers dans des marchés, dans des centres commerciaux ou dans une gare, il faudrait peut-être aussi traiter ces phénomènes de délinquance.
La délinquance juvénile, cette fois-ci en action, ce sera dans quelques instants avec une scène d'une rare violence. A tout de suite. Le mécontentement des riverains dans un instant du côté d'Aubervilliers, de la porte de la Villette. On rejoindra dans un instant au cœur de cette manifestation Augustin Donadieu. C'est juste après le rappel des titres de l'actualité et c'est avec Yann Effelé.
En Russie, un signe de plus de tension interne. Vladimir Poutine vient de signer des amendements qui prévoient jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui désertent ou refusent de combattre en période de mobilisation. Il a également signé une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers qui s'engagent pour une durée d'au moins un an dans l'armée. Cela intervient au moment où Moscou cherche par tous les moyens à recruter plus d'hommes pour combattre en Ukraine. L'ouragan Fiona a touché terre sur la côte atlantique au Canada, déjà 500 000 foyers privés d'électricité. Les services météo se préparent à une tempête historique. Dans son passage dans les Caraïbes, Fiona a semé mort et destruction. Les autorités de la province de Nouvelle-Écosse demandent aux habitants de rester à l'intérieur et d'avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. L'aéroport de Montpellier est toujours fermé, et ce pour une durée indéterminée. Cette nuit, un avion de fret a fait une sortie de piste lors de son atterrissage. L'incident n'a fait aucun blessé. Mais dans l'attente d'une enquête et qu'une entreprise spécialisée vienne déplacer l'appareil, les vols commerciaux et de fret ne peuvent plus atterrir à Montpellier.
La situation est essentielle provisoire, sauf que le provisoire dure déjà depuis 365 jours. Oui, un an déjà. Conséquence, cette nouvelle journée de... mobilisation contre ce camp de crack du côté de la porte de la Villette, hein, dans le 19e arrondissement de la capitale. Il y a Pantin côté, il y a Aubervilliers. Et conséquence, mon cher Augustin Donadieu, cette nouvelle journée de mobilisation des riverains et des élus. Hein.
Effectivement, Patrice, les riverains fortement mobilisés qui cherchent des solutions. Comme ce plan crack. Ce plan crack, il a été annoncé jeudi dernier par la Fédération Addiction. Il va chercher à résoudre ce problème des consommateurs de crack, hein, qui est en nette augmentation. Et dans ce plan crack, il y a notamment la création de salles de consommation. Cette mesure ne fait pas l'unanimité. Elle crispe même les tensions au sein des riverains. Et on va comprendre pourquoi. Pourquoi avec Mickaël. Bonjour Mickaël. Vous êtes habitant non pas de ce quartier-là, mais de la Riboisière, où une salle de shoot a été créée. Et visiblement, ça ne résout pas le problème, loin de là.
Ça ne résout pas le problème, parce qu'au départ, ils nous avaient vendu à une salle qui permettrait de ramener la tranquillité dans le quartier. Or, on voit que depuis plus de 5 ans maintenant, c'est pas le cas. Donc, il y avait un périmètre d'immunité, on va dire, d'impunité et d'immunité qui a été créé autour, donc 200-300 mètres. Et dans ce périmètre, en fait, les toxicomanes sont libres d'aller et venir comme ils veulent. Certes, c'est le but. Par contre, on a aussi les dealers qui sont en permanence devant cette salle ou aux alentours, qui font leur petit business. La police ne fait rien, l'État ne fait rien, la mairie de Paris ne fait rien. Ce qu'il faut savoir, que cette salle a été initiée par la mairie de Paris et a été installée là sans l'accord des riverains. On nous a vendu, voilà, sans consultation, nous a vendu oui, il y a eu une réunion juste avant, ce qui était purement consultatif, ça a déjà été décidé. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu une réunion avec Fédération Addition, certes, soi-disant privée, mais avec quelques élus, dont Madame Souris, l'adjointe à la santé de la maire de Paris. Et on s'est retrouvés à être refusés, en fait, à l'entrée. Pour eux, en fait, ils n'invitent en fait que l'entre-soi, que les associations et les collectifs de riverains qui sont pour. Donc, je faisais partie du collectif Riverains Gardiens à la Riboisière. On est plus de 400. On n'a jamais été invité. On a été à des comités de pilotage, mais qui étaient des blagues.
Vous regrettez donc de ne pas être impliqué dans ces réunions, dans ces solutions. On va se tourner vers François. François, vous êtes membre de l'association Villaide Village. Vous vous sentez concerné par cette situation. Et ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a un côté répressif, mais aussi un côté médical, social à avoir.
Il est absolument nécessaire de sortir par le haut de cette situation. Et sortir par le haut, c'est par des mesures, non pas de réduction des risques et d'accompagnement de la consommation. On a vu que la salle de consommation de la Riboisière crée du désordre, renforce en fait la délinquance dans le quartier. La solution, c'est de désintoxiquer, c'est de soigner ces personnes. Des vrais parcours de soins avec des structures de désintoxication en dehors des villes, si possible, évidemment dans des univers protégés. C'est ce qu'on réclame. Il existe déjà des structures de ce genre qu'il faut continuer à développer. Entre autres, il y a une structure dans le Val d'Oise qui s'appelle Espoir du Val d'Oise qui propose un parcours sur un an. Et ces personnes ont de très bons résultats, y compris sur le crack.
Voilà la question. Est-ce que ça fonctionne avec cette substance? On sait qu'elle est très dangereuse, très forte, très addictive. Est-ce que ça fonctionne?
Ça fonctionne à partir du moment où la personne est désintoxiquée. On sait que les problèmes de ces personnes sont souvent aussi psychiatriques, en amont ou en aval de leur consommation. Il faut donc organiser un parcours de soins à l'hôpital, renforcer les moyens de l'hôpital psychiatrique, permettre à ces personnes de se reconstruire avec du temps. Là où il faut du temps, des structures ad hoc avec un rétablissement sur un an, on fait des propositions à court terme avec des outils de réduction des risques comme des pipes à crack et des nuits d'hôtel. On voit que le résultat n'est pas là, malheureusement pour tout le monde. L'idée, c'est de sortir tous de cette situation, les riverains comme les toxicomanes, par le haut. voilà ce qu'on propose.
En un mot, est-ce que vous avez espoir ?
Bien sûr qu'on a espoir. L'idée, c'est simplement que les riverains doivent être partie prenante dans les négociations et doivent être présents lors des négociations des plans CRAC. Et ça, c'est indispensable.
Ça n'a pas été le cas depuis le début ?
Ça n'a jamais été le cas, malheureusement. Et les riverains qui étaient invités étaient toujours des associations un peu fantoches, dont les membres étaient aussi liés à la Fédération Addiction, entre autres. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'écouter toute la parole, que la parole soit libérée. On peut avoir des points de vue contradictoires, mais écoutons-nous et surtout débattons. Et évidemment, trouvons des solutions pérennes. Et cette solution passe par le soin. La réduction des risques ne règle pas la situation, malheureusement.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup pour votre témoignage sur CNews. Je le rappelle, dans quelques jours, une rencontre des habitants avec le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, nouvellement nommé il y a tout juste un mois.
Ils sont forts, ils sont forts de vérité, effectivement, ces témoignages. Merci beaucoup, Augustin Donadieu, avec les images, encore une fois, de Vincent Burga. Pourquoi on n'écoute pas plus les citoyens ?
On n'écoute pas les citoyens, on n'écoute pas non plus les praticiens.
Parce qu'ils doivent vous le dire, vous, ils doivent vous interpeller dans la rue, vous.
Bien sûr, de toute façon, c'est nous qui sommes les premiers
points
de contact avec cette population agacée, exaspérée. Nous, comme on leur dit toujours, nous... Si on avait des instructions claires, précises et s'il y avait un vrai dispositif conjugué, on ferait le boulot. Aujourd'hui, il y a des priorités. Le ministre de l'Intérieur est actuellement à fond sur la fameuse loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Alors, il explique partout que là, on va voir un grand changement avec les cyberpatrouilleurs. Le futur risque, c'est le hacking et c'est les escroqueries sur Internet. Mais moi, je veux bien qu'on mette tout le budget sur le cyber, etc. Mais avant de traiter le cyber, traitons déjà le matériel, le hardware, ce qui est visible là sur la voie publique. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur et le président ont annoncé donc une nouvelle création de policiers et de gendarmes sur la prochaine mandature. Mais c'est bien sûr pas un syndicaliste policier qui va vous dire qu'il ne faut pas de création d'emplois, ni dans la police, ni dans la gendarmerie. Mais si on crée énormément de forces de police et qu'on n'est pas capable d'éradiquer quand même un système qui est assez circonscrit et qui n'est pas non plus intraitable, on va perdre toute légitimité. Quand je dis « on », c'est les pouvoirs publics, la police nationale. L'autorité judiciaire, c'est pareil. Elle est très muette, elle est très discrète. On n'entend plus beaucoup, d'ailleurs, le ministre Dupont-Moretti depuis quelques mois. Il a peut-être une extinction de voix, il a un problème aux cordes vocales, mais c'est vrai qu'on n'entend pas sur tous ces sujets. Et nous, les policiers nationaux, on ne demande qu'une chose, c'est de régler le quotidien. Karine l'a souvent dit sur ce plateau, nous, les gardiens de la paix, c'est noble, on est là pour protéger les biens et les personnes. Et en effet, face à ce phénomène, on ne peut que constater qu'on ne rend pas le service, mais on ne le rend pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas le faire.
Mais
parce que pour l'instant.
On en est, François Bersani, à notre combien plan crack ? C'est pas la première fois le plan crack.
Non, c'est parce que jusqu'à présent, les salles de shoot, alors il faut surtout pas appeler ça des salles de shoot parce qu'on nous dit non,
c'est des salles de consommation à moindre risque, si vous faire plaisir.
En même temps, c'est des salles de shoot. Mais tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent, c'est de cacher la poussière sous le tapis, donc de les mettre dans des locaux fermés pour qu'ils continuent à se doper. Si le projet, c'est juste de les mettre derrière un paravent, on ne traitera pas grand chose. C'est comme l'immigration irrégulière.
En fait, ce qui est fascinant, c'est le fossé immense qui existe entre les solutions que préconisent les pouvoirs publics ou un certain nombre d'associations qui, effectivement, militent pour les créations de salles de shoot et l'expertise, finalement, de ces riverains qui sont très conscients que le problème, si on veut le traiter, et pour ne parler que du plan sanitaire, c'est par un sevrage. Ce n'est pas en maintenant sous camisole chimique des zombies qui en plus seront toujours, en plus ça a été expliqué, ces zones blanches où finalement à la fois les consommateurs et les délinquants se retrouvent à proximité de ces salles de shoot sans que la police ne puisse intervenir. Le problème se cristallise, est aggravé en plus du trafic de crack, c'est le trafic de ces produits de substitution, la méthadone, le subutex, qui sont également l'objet de trafic entre ces gens. La solution, ça a été dit en tout cas, juste pour en rester sur le plan sanitaire, c'est le sevrage. Mais ça suppose des centres fermés, ça suppose des moyens. Et en fait, il y a un certain nombre de personnes, notamment d'associations, qui ont et même pour parler aussi de la pharmacologie, mais de personnes qui ont intérêt finalement à ce que ces centres de shoot subsistent, parce que c'est des produits qui sont délivrés sous ordonnance à ces consommateurs. Donc il faut sortir de cette logique-là. La logique, pour en tout cas d'un point de vue sanitaire, pour en finir avec le crack, c'est vraiment de sevrer ces gens-là. Ça prend du temps, c'est énormément d'énergie, mais c'est la seule solution pour eux si on veut qu'ils redeviennent des hommes et des femmes.
La désintoxication est en marche. J'ai l'impression que c'est le genre de phrase qu'on n'entendra jamais.
Écoutez, moi je suis frappé quand même par la lucidité, la dignité des témoignages auxquels nous avons droit grâce à notre reporter sur place. Tout ça corrélé à une solidarité qui dépasse alors pour le coup le cadre des frontières, que Pantin, Aubervilliers, 19e arrondissement, des gens qui sont des anciens habitants qui reviennent parce qu'ils se sentent aussi concernés quelque part. Tout ça est assez quand même fort et important à saluer. Moi, je me dis que ce qu'on est en train de voir là, c'est une catastrophe pour le message que l'on veut envoyer à nos compatriotes. Aujourd'hui, on a ce problème-là. Il n'y a pas d'action. Il n'y a que de la communication. Il n'y a pas de volonté politique. On n'écoute pas les citoyens. On n'écoute pas les praticiens. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on en fasse peut-être un laboratoire de ce qu'il faut faire pour pas que ça se reproduise ailleurs. On attend quoi ? D'être dépassé par les événements ?
Ben c'est le cas.
D'avoir plusieurs situations de ce type partout en France ? Ça n'est pas encore le cas avec le crack. Ça l'est avec le cannabis. Ça l'est avec d'autres drogues où on a des groupes qui terrorisent des quartiers. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on se réveille, qu'on ait un sursaut républicain dans ce pays.
Parce qu'on en a parlé la semaine dernière, il y a cette situation à Port-de-la-Villette, mais l'ancien camp, il y a des gens qui sont revenus sur l'ancien camp, effectivement.
Et des craqueux
qui sont revenus à Stalingrad,
Mais ils encouragent, mais une dignité fabuleuse. Ils soulèvent le problème. Ils ont encore le recul pour dire il faut une mesure sanitaire pour ceux qui sont des consommateurs. Mais dans cette situation, il y en a beaucoup qui pourraient péter les plombs et vouloir se faire justice eux-mêmes. D'être dans une forme d'autodéfense, ce à quoi on n'appelle pas, que ce soit clair. Mais il va falloir quand même que les institutions républicaines en charge de ces sujets, sur le plan régalien, prennent le taureau par les cornes. On va y arriver. Il va y avoir un drame un jour.
Bah là, déjà, cette agression, effectivement, de cet homme de 92 ans. Est-ce que le dispositif concernant, effectivement, la sécurisation de ce quartier est proportionné ? François Bersani.
Tout dépend de ce qu'on veut faire, Patrice Bosser. En fait, si on veut juste mettre des policiers parisiens autour dans un périmètre pour espérer un peu comme les cow-boys rassembler le troupeau et éviter que le troupeau ne se disperse, on sait faire. On peut en effet y fidéliser des compagnies républicaines de sécurité ou des gendarmes mobiles. Mais encore une fois, c'est de la mesure, je dis toujours ça, c'est de la mesure de chirurgie esthétique. On n'est pas là sur de la chirurgie d'hier. Et là, aujourd'hui, il faut y aller, il faut rentrer dans l'art et il faut traiter les problèmes de fond et non pas s'occuper juste de faire un cordon sanitaire ou un cordon sécuritaire autour de cette zone, parce que d'abord, il va y avoir des métastases, ça va forcément aller sur des communes ou encore autres. Le jour peut-être où ce camp se déplacera dans les jardins du château de Versailles à la lanterne où vit le président de la République tous les week-ends et pendant ses congés, ou au Touquet ou à Courchevel, peut-être que le problème sera pris en compte. J'ai l'impression que pour l'instant, là où il est situé, ça n'a pas suffisamment alerté les autorités.
Bonsoir Karine Franklay, merci d'être avec nous en direct dans Punchline. Madame la maire, je vous ai eu en ligne. Effectivement, on a conversé, vous étiez sur ce plateau il y a tout juste un an. En un an, est-ce que la situation a empiré ?
Tout à fait. Mais bien sûr, ça fait un an jour pour jour, alors que la situation ne devait durer que quelques heures ou quelques jours. Ça fait un an que mes habitants subissent des nuisances. Les habitants des rez-de-chaussée sont terrorisés parce qu'il y a des intrusions. Les halls d'immeubles sont squattés. Mon personnel de médiathèque ne sait pas comment faire parce que il y a des gens qui viennent, des toxicomanes qui viennent se shooter sous les yeux des enfants. Ma police municipale locales qui avaient déjà bien du mal et qui, pour qui on déployait des efforts pour améliorer le cadre de vie, se retrouvent submergées. Mes services de propreté également. Donc là, au bout d'un an, mais la colère gronde, elle est intacte, notre détermination aussi, mais la situation s'aggrave de jour en jour. Et donc c'est pour ça que nous demandons le déplacement de ce camp de crack qui n'a pas à être. C'est un scandale de l'avoir déplacé au port de territoires qui cumulent déjà énormément de fragilités, alors qu'on se bat au quotidien, pied à pied, pour améliorer la situation dans nos territoires.
Là où en sont les réunions entre la mairie de Paris, l'ARS et bien sûr la préfecture de police. Et je me souviens encore de vos mots il y a un an. Vous deviez taper du poing sur la table avec vos collègues maire François Dagneau et Bertrand Kern, le maire de Pantin, pour être dans la boucle. Est-ce que vous êtes un poil plus entendu aujourd'hui ou toujours pas?
Mais écoutez, on a été entendu par le préfet de police qui a mis des moyens supplémentaires pour la sécurité. C'est pas encore suffisant, mais c'est déjà un premier pas. Nous allons être reçus début octobre, mais après, sur le plan crack, nous n'avons pas été associés. On a eu une réunion début octobre l'année dernière et ça s'est arrêté là.
Est-ce que vous avez bon espoir, Madame la maire, que l'on puisse un jour, à court terme, détruire ce mur de la honte qui est derrière vous?
Mais écoutez, j'en parlais avec un habitant tout à l'heure qui me disait, mais le jour où ce camp sera déplacé, Madame le maire, il faut qu'on casse tous ensemble le mur et qu'on fasse une grande fête. Et j'espère que ce jour arrivera très bientôt. Et vous savez, quand on est maire d'Aubervilliers et qu'on fait face à tant de difficultés, il faut absolument, en toutes circonstances, rester optimiste et déterminé. Et c'est mon cas.
Karim Zeribi, une question.
Bonjour Madame le maire, Karim Zeribi, vous parliez de déplacer le sujet, mais concrètement ça veut dire qu'on n'a pas d'espoir de régler la question sur le fond, parce que ça fait plusieurs fois que le problème est déplacé, et on voit bien que sur le plan sanitaire, l'État n'apporte pas de réponse suffisamment forte pour interner et soigner, sevrer ces personnes-là. On voit bien que les sans-papiers qui sont des dealers ne sont pas non plus écartés par la justice. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut vraiment traiter le sujet une bonne fois pour toutes plutôt que le déplacer ?
Mais je pense que vous ne m'avez pas comprise, parce que je demande le déplacement et le slogan est « Soignez-les ». Protégez-nous. Donc il faut absolument que le gouvernement trouve une solution de prise en charge globale, mais elle ne peut pas se faire sur ma commune. C'est ça que je dis.
Qu'est-ce qu'attend le gouvernement d'après vous ?
Bien écoutez, je ne sais pas et je n'ai pas la compétence parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas été associés. Moi, ma préoccupation est d'être à l'écoute des habitants, en soutien, d'essayer de les protéger au maximum avec mes moyens qui sont malheureusement limités.
En termes d'effectifs pour la police municipale, vous avez réussi justement à gonfler ces effectifs ?
Mais écoutez, à notre arrivée, on avait une police municipale qui n'était pas équipée. Ils étaient 8. Aujourd'hui, 2 ans après, on a construit un nouveau poste de police municipale. On a un véritable centre de surveillance urbaine qui nous est d'une grande aide et ils sont 40. Donc on est sur une pente d'augmentation et vraiment je tiens à saluer leur travail au quotidien qui est compliqué depuis un an encore plus qu'avant.
Merci beaucoup Madame la maire. Karine Franck, la maire d'Aubervilliers, et bon courage bien évidemment pour la suite. Merci. On n'hésitera pas à vous rappeler pour faire le point. Merci. Sur cette situation qui dure, situation provisoire qui dure quand même depuis un an déjà, et c'est sans parler de ce qui se passait avant à Stalingrad et du côté de la chapelle. Et j'en passe. Merci beaucoup Karine Franck d'avoir été avec nous. Merci bien sûr à Augustin Donadieu et le duplex réalisé bien sûr par Vincent Burga. C'est l'histoire sans fin ou pas, cette histoire de crack ?
Eh bien, Patrice, il faut poser la question aux décideurs. On a à la tête de l'État des gens qui ont été élus.
C'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, même les forces de l'ordre sont incapables, j'ai le sentiment, de rassurer la population. Les maires font comme ils peuvent. Et vous, vous êtes tributaire des décisions qui viennent d'en haut.
Je ne suis pas sûr, encore une fois, je ne vais pas me dédouaner, mais je ne suis pas sûr que ce soit aux forces de sécurité de rassurer la population. La population, elle n'élit pas des policiers.
Vous interpelle, vous l'avez dit, vous êtes sur le terrain.
Tout à fait, voilà, on est là, on est à portée de claque, donc on est les premiers interlocuteurs de la population quand ils font le 17 police secours pour nous appeler. Mais tout ce qu'a besoin la police, c'est en effet des instructions claires. On sait parfois nous donner des instructions claires pour aller contrôler les attestations de sortie en période période Covid, pour aller contrôler le port du masque. On sait nous donner des instructions au quotidien pour la lutte contre les violences intrafamiliales et la lutte contre les stupéfiants, la sécurité routière, et puis je pourrais dérouler la liste à la Prévert. Là, en l'occurrence, sur ce problème de plan crack et de crack, il faut en effet des consignes claires et elles seront appliquées par les forces de l'ordre. C'est une question de volonté.
Merci. Vous restez avec nous, François Bersani. On va parler dans un instant de ce classement des villes les plus sûres. Devinez quoi ? Eh bien, les villes françaises ne sont pas au rendez-vous. C'est même la dégringolade. On en parle dans un instant. Le pourquoi du comment, c'est tout de suite. 17h passées de 58 minutes. Merci encore de votre fidélité. La deuxième partie de Punchline. On est ensemble jusqu'à 19h pour faire un point sur l'actu de ce samedi. Nantes, Paris, Marseille, les villes françaises qui dévissent au classement mondial des villes les plus sûres du monde. Le pourquoi du comment, c'est juste après l'essentiel de l'actu. Et c'est avec Yann Effelé.
Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, devant la justice, il comparait lundi et mardi devant le tribunal correctionnel de Valence pour des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. La justice suspecte la municipalité d'avoir attribué sans mise en concurrence un marché à une association pour l'organisation d'une fête populaire qui se tient chaque année. Le maire estime de son côté que cette attribution ne nécessitait pas de mise en concurrence. 8 députés Renaissance demandent une commission d'enquête sur d'éventuels financements russes de partis. Cela fait suite à la révélation d'informations déclassifiées américaines qui font état de plusieurs centaines de millions de... présidentielles. Il s'agit de savoir si des partis politiques français et lesquels ont éventuellement bénéficié de financements russes. La Maison-Blanche qualifie de catastrophique une décision de justice en Arizona sur l'avortement. Le porte-parole de la présidence américaine condamne les conséquences potentiellement dangereuses et inacceptables de la réactivation d'une loi qui interdit presque totalement l'avortement. Si cette décision se confirme, des personnes ayant survécu au viol et à l'inceste seraient forcées de porter les enfants de leur agresseur, selon le porte-parole. Et puis quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le décollage de la méga-fusée pour la Lune prévue mardi est à nouveau reporté. C'est la troisième fois que le lancement de l'engin vers la Lune est décalé, cette fois à cause d'une tempête qui devrait se transformer en ouragan vers la Floride, là où se trouve le centre spatial de la NASA.
Nantes, Paris, Marseille, les villes françaises dévissent dans le classement mondial des villes les plus sûres. L'insécurité est croissante dans l'Hexagone. Quand ce ne sont pas les Français qui le disent, eh bien ce sont les touristes. Inès Alicane, Sandra Chambo avec Solène Boulan.
La France, en bas du tableau, dans le classement des pays les plus sûrs au monde. Classé 27e sur 29, l'Hexagone se situe derrière la Turquie, le Pakistan ou encore le Mexique, et trouve sa place devant le Brésil et l'Afrique du Sud, qui occupent les deux dernières places du classement. Une situation qui interroge.
Ce n'est pas un classement qui s'appuie sur des chiffres, c'est quelque chose qui demande aux touristes, dans les villes soi-disant les plus sûres du monde ou les plus fréquentées par des touristes, s'ils se sentent, oui ou non, en insécurité. C'est intéressant parce que ça ne mesure pas nécessairement la réalité des choses, mais la manière dont elle est perçue.
Sur 12 villes françaises présentes dans le classement, seulement Strasbourg se trouve dans le top 200, en occupant la 166e place sur un total de 453 villes classées dans le monde. Loin derrière Abu Dhabi, Saint-Sébastien ou encore la ville de Québec. De son côté, Nantes est la mauvaise élève, se situant à la 407e place. Face à l'insécurité, les Nantais sont en colère.
Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite.
Devant chez vous quasiment ?
Devant chez moi exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
Enfin, au niveau européen, les villes françaises s'enfoncent plus vite que les autres villes d'Europe.
Ce classement, il fait parler la police.
Guillaume Bigot le disait, il y a un problème. Enfin, un problème. On peut se poser des questions sur la méthodologie, puisque là, on est vraiment sur une enquête, on va dire, de victimation. On va peut-être demander dans les hôtels, lorsque les touristes débarquent ou dans les aéroports, qu'est-ce que vous pensez de ce pays. Après, sur le fond du problème en France, on le connaît. Il y a une hausse exponentielle des crimes et délits depuis les années 2000. Chaque année, on enregistre plus de crimes et délits. Donc, de toute façon, même si on faisait une enquête sur des chiffres, sur des statistiques chiffrées du nombre de crimes et délits, eh bien, on arriverait peut-être à une convergence. On peut faire la comparaison avec le classement PISA pour l'éducation. On s'aperçoit maintenant que dès lors qu'il y a des classements ou des palmarès qui classent la France sur plusieurs domaines, que ce soit la sécurité, l'éducation, et si on en faisait un sur la justice, je pense qu'on ne devrait pas être surpris non plus du résultat. Mais oui, c'est l'espèce de délitement général, global. Alors on peut essayer de se rassurer en disant c'est juste du ressenti, c'est juste une impression. Mais bon, c'est vrai que quand on arrive dans certains aéroports, l'aéroport qu'on se fait harceler par des faux taxis, quand on après on se fait attaquer par des vols des voleurs sur scooter sur l'autoroute A1, quand on arrive à Châtelet-Léal ou à Gare du Nord et qu'on tombe au milieu d'une faune pour des touristes.
Je vous entends François Bersani, mais je me dis que même si on se fait détrousser ou si on se fait abuser par un chauffeur de taxi du côté d'Orly ou de Roissy, c'est pas pour ça qu'on va mettre une mauvaise note, une note catastrophique à la ville de Nantes.
Le touriste va se sentir braqué. Alors, je ne connais pas l'expérience des touristes qui ont été interrogés sur Nantes, à l'aéroport ou dans les hôtels de Nantes. Ouais. Bon, en même temps, à Nantes, quand on voit toute la faune de punk à chien qui maintenant a colonisé le centre-ville, c'est pareil sur Rennes. Ouais. On a des très mauvais retours aussi de la part de touristes qui vont, des touristes même français, qui vont en Bretagne sur Rennes, qui était pourtant préservé avant. Moi, je ne suis pas très surpris. Alors après, il y a la méthodologie, mais je pense quand même que le fond du classement nous expose à la figure. Oui.
Alors, des villes françaises qui sont plus dangereuses que la ville de Medellín, est-ce que vous, la méthodologie vous interpelle ou pas du tout?
Non, mais en fait,
c'est intéressant, Raphaël Stein.
Moi, je trouve ça très intéressant, cette méthodologie. Je comprends qu'on puisse la remettre en question, l'interroger, mais le ressenti des voyageurs traduit une réalité. Souvenez-vous, c'était Lionel Jospin qui, finalement, pour avoir méconnu le ressenti des Français à l'égard de l'insécurité, qui parlait seulement de sentiment d'insécurité, l'avait payé très cher politiquement. Finalement, ce ressenti des voyageurs, ça traduit une vraie réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils regardent CNews, ce n'est pas parce qu'ils lisent Valeurs Actuelles, ce n'est pas parce qu'ils lisent Le Figaro, que tout d'un coup, ils se mettent à penser cette réalité que certains présentent comme fantasmatique. Non, c'est cette réalité dans un certain nombre de quartiers de ces villes touristiques, elle traduit un sentiment de trouble, d'insécurité des voyageurs. Ces gens-là ne ignorent tout des réalités des pays qu'ils traversent. En revanche, quand ils sont en France, quand ils sont à Nantes, quand ils sont à Paris, quand ils sont à Marseille, quand ils sont à Bordeaux aujourd'hui, ils ressentent cette insécurité. Ne pas prendre en compte ce sentiment d'insécurité que le voyageur rencontre, ça serait absolument dramatique. Ce sentiment, il traduit cette espèce de dégringolade aujourd'hui de notre pays, incapable de préserver ceux qui le visitent.
Vous savez, je ne l'avais pas vu. Vous savez ce qui m'interpelle dans les cinq premiers, les cinq premières villes les plus sûres? C'est Saint-Sébastien. C'est quand même pas loin.
C'est le Pays Basque.
Parce que, bon, tu peux toujours dire Abu Dhabi, Doha,
Pays Basque,
c'est connu pour effectivement la sécurité. Saint-Sébastien. Ouais.
C'est pour ça que ce classement, on peut toujours interroger la méthodologie, mais a priori, les touristes ont été dans différents endroits et c'est quand même la France qu'ils ont désigné comme le mauvais élève. C'est pas pour rien et je rejoins ce qui a été dit. Le sentiment d'insécurité, soi-disant, des Français est partagé finalement par les touristes étrangers. Donc on voit bien que c'est pas un sentiment, que c'est bien une réalité. Ben, ça fait un moment que je dis que la France est en voie de tiers-mondisation. On le voit, elle rejoint des pays d'Amérique du Sud comme le Brésil.
On est derrière le Brésil.
Mais en même temps, les images du Stade de France, on les a pas vues au Brésil pendant la Coupe du Monde, par exemple. Donc je dis pas qu'on est aujourd'hui le Brésil, mais je crois que c'est vraiment une pente qu'on est en train de prendre. Et il suffit de regarder l'émission. On a commencé avec les craqueurs. Je vous parlais tout à l'heure du Stade de France. On pourrait parler du Trocadéro, qui est quand même l'emblème de la France avec la Tour Eiffel, où il y a des mineurs isolés qui braquent les touristes en permanence et on ne peut pas les mettre en prison parce qu'ils sont mineurs isolés. Donc il y a un problème aujourd'hui structurel d'insécurité en France, qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau et inquiétant peut-être par rapport à l'époque de Lionel Jospin, c'est-à-dire il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, ça touche plus simplement les banlieues, les territoires dits perdus de la République, ça touche aussi les grandes villes et même des villes où il faisait bon vivre. Nantes, il y a quelques années, c'était la ville où il faisait meilleur vivre en France.
Donc,
ça veut dire que les problèmes se sont disséminés. C'est pour ça que c'est très inquiétant quand le président de la République explique qu'il va disperser l'immigration partout dans le pays. Eh bien, c'est en fait importer, délocaliser les problèmes des territoires perdus de la République partout sur le territoire.
Karim Zeribi, quel est votre sentiment? Certains balaient d'un revers de main cette étude, effectivement, qui est basée sur le ressenti des touristes. Encore une fois, on le précise, des touristes. Quel est votre sentiment? À votre avis, est-ce qu'au gouvernement, on regarde ça d'un œil intéressé ou justement, ils font partie de ces gens qui balaient ça d'un revers de main?
Et par-delà ce classement, je ne sais pas si on doit accorder de la crédibilité ou pas à cette méthodologie, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas le sujet. A-t-on besoin de ce classement pour savoir que la situation se dégrade dans certaines de nos villes ? La réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de ce classement. Alors après, on se compare en se disant, moi j'ai du mal à penser quand même que nos villes sont moins sûres que les villes d'Amérique du Sud. Excusez-moi, mais alors je ne sais pas qui sont les voyageurs. Peut-être que c'est les Colombiens qui votent. Selon les pays. Mais très franchement, l'Amérique du Sud, ça reste quand même dans un autre classement qui est alors pour le coup plus fouillé. C'est deux tiers dans le monde des villes d'Amérique du Sud qui sont quand même les villes les moins sûres du monde. Donc bon... Une fois que j'ai dit ça, on connaît nos problèmes, il faut les regarder en face. On a un problème de trafic de drogue qui se développe partout en France, et pas seulement dans les banlieues que l'on connaissait, dans les quartiers que l'on savait effectivement avec une mainmise des trafiquants. On en a dans des villes moyennes, on en a même dans des villages, des trafics de drogue aujourd'hui. Donc il y a des quartiers entiers qui sont pris en otage par ces trafics de drogue. On a l'impression, si on regarde les chiffres, pour le coup français qui parle, que ça se développe. On ne résout pas le problème. Donc ce problème prend de l'ampleur. Donc on n'arrive pas à endiguer le phénomène. Les violences... On a des chiffres aussi qui sont parlants. Les violences augmentent dans d'autres pays, et pas simplement des mineurs, même si la violence des mineurs augmente. Mais les refus d'obtempérer, on en parle régulièrement, c'est une forme de délinquance de voie publique. Quand on ne s'arrête pas à une injonction d'un fonctionnaire de police et qu'on est même capable de vouloir lui rouler dessus, excusez-moi, c'est un acte qui est quasi criminel. Donc ça, on le sait, on n'a pas besoin de ce classement.
Mais ça, la réalité, ça, c'est... À la rigueur, ils ne le voient pas, ça, les touristes. J'imagine.
Le tourisme ne le voit pas, c'est pour ça que je vous dis, par-delà ce classement, nous, on sait quels sont nos problèmes. Les questions d'immigration illégale, moi, j'ai clandestine. J'aime bien aussi dire que l'immigration légale, pour une immense partie d'entre elles, elle est utile au pays. On oublie souvent de le dire. Moi, j'aime le rappeler. Je sais que ça dérange et que ça gêne. Mais moi, ce qui me dérange, c'est l'immigration illégale. C'est les gens qui sont en situation irrégulière et qui font des ventes à la sauvette. Ma ville, Marseille, elle est frappée par l'immigration illégale. Sur la Canebière, donc, ils vous offrent du thé, ils vont vous faire les tresses, ils vont vendre les cigarettes. C'est hallucinant dans quel monde vit-on. Et l'immigration légale qui travaille, elle paye les conséquences aussi de ça. La communauté nationale le paye, mais cela aussi le paye. Donc il faut qu'on traite les problèmes. On ne les traite pas sur le fond dans notre pays. Et on a le sentiment qu'on a un problème de sécurité, certes, mais on a un problème surtout de justice. Parce que derrière, une fois qu'on le dit souvent, que les fonctionnaires de police, quand on leur dit « allez-y », vous savez, on ne leur dit pas deux fois « fonctionnaires de police », ils y vont, ils mettent la main sur les malfrats. Qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est la question qu'on pose et à laquelle on a très peu de réponses. Les places de prison, on n'en a pas augmenté. Les centres d'éducation renforcés, on n'en a toujours que 50 alors qu'on a 100 départements. Les centres de détention, excusez-moi, on a un centre de détention, c'est 140 places maximum, donc on a 2000 places dans le pays. Donc on a peut-être des centaines de milliers de gens en situation irrégulière. Comment on fait pour traiter le problème sur le plan de la justice ? C'est ça le sujet.
Je pense que le touriste, d'ailleurs, que nous sommes parfois occasionnellement au cours de l'année, le touriste, il va juger principalement deux spots pour juger s'il a la ville est sûre, il va juger les moyens de transport en commun qu'il va utiliser à l'arrivée d'une gare ou à l'arrivée d'un aéroport, et puis il va aussi juger la sécurité sur les lieux touristiques. C'est à peu près les deux spots qu'il va juger.
Donc s'il va au Champ de Mars, il n'est pas bien.
Et ben voilà, quand vous êtes sur certains réseaux de transport de voyageurs en Île-de-France, ou quand vous sortez de la gare Saint-Charles à Marseille, ou quand vous allez sur certains lieux touristiques, vous ne sentez pas toujours en sécurité. Non. Le ministre de l'Intérieur l'a bien compris, puisque quand je parlais tout à l'heure de l'instruction qu'il a donnée à tous les directeurs de la sécurité publique de France, c'est d'accentuer la présence policière dans les gares, dans les aéroports, donc dans les moyens de transport. Donc je pense que ce classement, il a quand même été lu au niveau du cabinet du ministre et qu'ils ont décidé de mettre le paquet en fidélisant quelques heures par jour sur des lieux touristiques ou dans des gares ou dans des moyens de transport des policiers. Donc je pense que...
Mais si on augmente les emplacements, mais qu'on ne traite pas pour autant le problème de fond que j'ai évoqué, excusez-moi, c'est bien pour nos touristes, mais on a quand même des Français qui ont envie d'être en sécurité aussi.
Je pense qu'effectivement, ils vont mettre peut-être le paquet sur les gares, les aéroports, les trajets, puisqu'il va y avoir les Jeux Olympiques. Mais là encore, c'est des choses qu'on n'observait pas. On avait un problème systémique d'insécurité, mais qui touchait pas justement les grandes villes où le prix des loyers est quand même très important. Elles étaient épargnées par tout ça. Aujourd'hui, elles ne le sont pas. Et moi, je pense je pense qu'on est en voie de tiers-mondisation, tout simplement parce que dans les pays justement du tiers-monde, ce sont des pays où l'État dysfonctionne. Il est extrêmement corrompu sur le plan de la police, de la justice. Il y a peu de moyens. Et je crois qu'aujourd'hui en France, même s'il n'y a pas de problème pour le coup de corruption, dans un pays où l'État a en plus fondé la nation, quasiment l'État est extrêmement affaibli. On le disait sur l'hôpital, mais c'est partout où ça ne fonctionne plus. On ne peut plus renvoyer quand quelqu'un arrive en situation illégale, qu'il est sur le territoire, il reste. Quand au Trocadéro, je le disais, c'est l'emblème de la France, on n'arrive plus à résoudre les problèmes apparents parce qu'on a affaibli cet État régalien, soit pour des questions idéologiques, soit pour des questions de coûts budgétaires, et que l'argent n'a pas été là où il devait. Parce qu'il est paradoxal d'avoir un État aussi affaibli, c'est qu'on est dans un pays où on paye le plus d'impôts quasiment du monde. On est champion du monde des impôts. Où va l'argent? Je pense qu'il ne va pas au bon endroit. Il va dans des allocations qui parfois nourrissent le vice et l'insécurité plutôt que d'aller dans les services publics de l'État régalien.
Messieurs, vous l'avez évoqué, cette interrogation à présent dans la tête de certains riverains du quartier de la Bastille en plein cœur de la capitale. Quand vont-ils revenir? Ils se sont des migrants, entre 80 et 100 jeunes installés depuis la fin mai. Évacuation qui a eu lieu hier matin. On voit ça avec Amaury Boucaud, Olivier Gangloff, Aminat Adem et Inès Alicane.
Opération démantèlement de camps, installée depuis plus de 3 mois place de la Bastille. Et soulagement pour les riverains. Selon le communiqué de la préfecture de police, il a d'abord été détruit pour raisons sanitaires. Une épidémie de gale avait été constatée par l'agence régionale. Ce camp accueillait plus de 100 personnes, dont certains en attente d'un statut de mineur non accompagné. Une victoire pour ce collectif de riverains qui lutte depuis plusieurs mois.
Nous, on s'est regroupés en tant que riverains pour faire quelque chose, agir, pour pas que notre quartier, qui est si joli, soit dans cette situation déplorable. On a eu aussi très peur que ça ressemble à d'autres arrondissements parisiens, dans le nord de Paris.
Si les riverains ne comptent pas en rester là et craignent qu'une fois l'épidémie traitée, les migrants soient de retour, les commerçants aussi sont inquiets. Certains évoquent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires.
Au niveau de chiffre d'affaires, on a perdu beaucoup d'argent parce que surtout que nous, on est à côté de l'opéra. Et l'opéra, il a une clientèle pas trop jeune, ils sont âgés et les gens, ils ont peur de venir à Bastille.
D'autres ont même subi des agressions.
Et les mecs, ils viennent, ils traversent la rue. Pourquoi tu montes tes doigts sur moi? Ils m'attrapent par là. Et vraiment, c'est honteux. À mon âge, je ne veux pas me disputer dans la rue.
Certains jeunes migrants du camp ont d'ores et déjà été acheminés vers des hébergements pour adultes.
François Bersani, la question, ce n'est pas si ces jeunes mineurs vont revenir du côté de la Bastille, mais plutôt quand ils vont revenir.
Oui, votre journaliste utilise à plusieurs reprises le terme « migrant », qui, je pense, est utilisé à mauvais escient, parce que le fait de migrer, normalement, il y a de la mobilité, c'est quelqu'un qui migre d'un pays vers un autre et qui bouge. Là, en l'occurrence, très souvent, c'est bien encrusté, que ce soit donc les mineurs non accompagnés, la nouvelle appellation des mineurs, isolés. On est sur des étrangers en situation irrégulière, et je pense que souvent, on a tendance à vouloir relativiser en appelant le migrant. Mais le migrant, il peut avoir des papiers, il peut être tout à fait légalement sur le territoire, un migrant, il n'est pas forcément en situation irrégulière, il n'est pas forcément non plus mineur non accompagné, donc on globalise à mon avis à tort. Sur les mineurs non accompagnés, c'est toujours le même souci, il n'y a pas de réponse pénale actuellement en France. À chaque fois que des mineurs non accompagnés sont interpellés pour des délits, ils sont systématiquement remis dehors, alors par un passage ultra rapide de moins de 24 heures dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, dans laquelle ils ne restent pas, puisqu'ils ne sont pas enfermés sous contrainte, donc on a pas non plus régler ce problème-là avec les pays
François du Maghreb,
d'où viennent les mineurs non accompagnés.
À Paris, il n'existe actuellement qu'un seul lieu d'accueil, vous me confirmez, pour ces mineurs non accompagnés, isolés. Ouais, 40 places dans le 15e arrondissement, c'est ça? 40 places?
Oui, mais de toute façon, pour les mineurs non accompagnés auxquels on a pu avoir accès lorsque j'étais officier de police judiciaire, juste encore il y a 6 mois, ces mineurs non accompagnés, ils n'ont pas du tout envie de rester dans des structures étatiques, dans des structures de foyer. Eux, ce qu'ils veulent,
ils préfèrent les tentes,
ils préfèrent l'errance pour commettre du crime et délit, donc avoir des revenus, des subsides, et pouvoir les envoyer dans leur pays d'origine ou vivre ici sur le territoire.
Donc, les associations qui demandent de nouveaux centres d'accueil, vous me dites que ça ne sert à rien?
Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais c'est comme les poissons volants. blancs, c'est pas la majorité de l'espèce. Vous avez en effet des mineurs isolés qui vont avoir envie d'être réinsérés, réintégrés dans la vie publique, mais certains sont là par l'appât du gain et d'ailleurs remigrent parfois vers l'Italie, enfin vers les pays limitrophes pour aller commettre des larcins. C'est des équipes maintenant très organisées avec des réseaux, puisqu'on sait très bien qu'il y a des budgets colossaux, parfois 3 millions comme dans Seine-Saint-Denis au niveau du conseil départemental pour justement héberger les mineurs non accompagnés, et donc il y a des trafiquants qui orientent vers le département où il y a la plus grosse manne financière, où ils pourront être accueillis.
Alexandre Devecchio, est-ce que le silence de l'État est assourdissant sur cette question? L'État est condamné au silence?
Tant qu'il sait
qu'il n'a pas de solution.
Il est impuissant, donc effectivement, il est condamné au silence. Maintenant, je pense qu'on peut peut-être se donner les moyens d'agir. Je pense que ça, c'est dû à un excès de droit. D'ailleurs, c'est la même question que pour la question du crack. C'est parce que le droit est contraire au droit, je dirais, des honnêtes gens.
Je vous précise que d'après la préfecture, le campement présente de graves problèmes de salubrité publique, une épidémie de gale. Oui. Ayant été constaté par l'Agence régionale de santé de France. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'évacuation.
Je faisais le lien entre les deux sujets, parce que sur le crack, le bon sens commande de les enfermer et de les soigner, qui est une injonction de soi, et le droit l'empêche pour ce qui est des mineurs isolés. C'est pareil, parce qu'ils sont mineurs, d'ailleurs beaucoup ne sont pas mineurs, on ne pourrait pas les raccompagner dans leur pays. Je pense que là, le droit est trop permissif et crée une forme d'appel d'air, puisque c'est devenu une filière pour l'immigration clandestine, que beaucoup ne sont même pas mineurs, et que voilà, on encourage les gens à venir alors même qu'on n'a pas les conditions pour les accueillir. Donc je pense qu'il faut, si on veut changer la situation, il faut évidemment changer le droit. Je pense que c'est la première des priorités pour que la question de l'immigration dans sa globalité redevienne une question politique et pas seulement une question juridique. En fait, il faut supprimer tous les recours. C'est à l'État souverain de déterminer qui peut rentrer ou sortir de son territoire. Il faut aussi avoir le courage d'assumer, plutôt que de parler de répartition des migrants, que vu la crise de l'intégration qu'on subit depuis des années, l'urgence n'est pas de répartir, mais de stopper les flux, voire, je le dis, de les inverser. C'est-à-dire que les gens qui sont en situation irrégulière, ils sont là, c'est des centaines de milliers de personnes. Donc ces centaines de milliers de personnes-là, on aimerait les voir partir et qu'il y ait plus de départs que d'arrivées.
Et aujourd'hui, encore, je vais vous dire, dans leur malheur, effectivement, les habitants du quartier de la Bastille, ils n'ont attendu, si je puis dire, que 5 mois avant que le camp soit évacué. On parlait du crack il y a un instant.
Oui, mais c'est pareil. Il va être déplacé. Il a fallu une épidémie de gale.
Oui, Karim.
Moi, quand je vois ces images, j'ai des mots qui me viennent à l'esprit. Délitement, laxisme, faiblesse de l'État. Et c'est des mots qui me font mal. C'est des mots qui me font mal parce que je me demande qu'est-ce que l'on fait lorsque nos autorités se rendent dans les pays concernés. Mais on parle de quoi? Mais on fait quoi? Le président a été en Algérie récemment, à part négocier le prix du gaz. C'est très bien que c'est le principal de ce déplacement, ça a été ça. On parle aussi des sujets de retour de clandestins algériens, parce que, encore une fois, il y a des Algériens en situation régulière dans le pays qui bossent. Ils n'embêtent personne. Il faut avancer le pays. Puis il y en a qui sont en situation irrégulière, on les a sur les bras, on n'arrive pas à les renvoyer. On en parle avec le pays. Pareil avec le Maroc, pareil avec la Tunisie, pareil avec l'Afrique subsaharienne. Parce que si on veut, à un moment donné, avoir une immigration digne de ce nom dans le pays, qui puisse être en cohésion avec la communauté nationale, il va falloir qu'on traite ce sujet. Sinon, on ne pourra pas avoir une forme de cohésion avec les immigrés, même en situation légale. Et je repense aux images de tout à l'heure de ce quartier du crack. Et on l'a vu même là, dans ce quartier de Bastille. On a des gens, on voit bien qu'ils prennent la parole. Je ne sais pas s'ils sont français, mais en tout cas, s'ils sont français, ils sont français. Ils sont d'immigration pour certains d'entre eux. Et pour d'autres, ils sont peut-être immigrés en situation régulière, commerçants. Donc ça veut dire que ces gens-là sont aussi touchés. Donc ne faisons pas une ligne de fracture entre immigrés étrangers et français. Non, on a un problème avec l'immigration illégale dans notre pays. Il n'est pas traité. On est impuissant avec ce sujet. Et il emmerde tout le monde, pardonnez-moi l'expression.
C'est clairement une zone grise.
Et aujourd'hui, voir des tentes. Moi, je vais vous dire, je prends le métro souvent.
Raphaël.
La Madeleine, 8e arrondissement, dans le métro. Vous avez des gens qui dorment dans les matelas, donc dans une station de métro. Mais que fait-on? Et que, à quel moment on va régler le problème?
La difficulté, Karim, c'est que d'un côté, on a un président qui, finalement,
encourage et pratique une politique très immigrationniste et un ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui voudrait gérer les conséquences d'une politique qui a été finalement décidée par d'autres et qui continue d'ouvrir les vannes de l'immigration. Donc on gère les conséquences sans s'apercevoir que les causes et tout ce qui a produit finalement tout ça nous amène à une situation totalement intenable. C'est d'abord ça, c'est ce hiatus entre l'exécutif qui est partagé entre d'un côté un président et puis ça fait des années.
Allez, la pause. Après, ça fait 15-20 ans qu'elle existe. Personne ne l'a traité, ce sujet.
La pause. On se retrouve dans un instant. Actualité internationale avec cette question. Faut-il, oui ou non, accueillir les déserteurs russes? On en parle dans un instant. Tout de suite. La dernière partie de Punchline. Merci encore de votre fidélité. Toujours avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Raphaël Steinville, qui est rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles. Karim Zeribi, consultant CNews. Et François Berceni, porte-parole du syndicat Unité SGP. Île-de-France, on parle dans un instant effectivement des déserteurs du côté de la Russie. Faut-il, oui ou non, les accueillir? L'Allemagne a dit oui, la France, on ne connaît pas forcément encore la position. En tout cas, c'est ce qui anime en tout cas les débats en ce moment avec une grosse réunion du côté de Bruxelles à suivre ce lundi. On en parle juste après l'essentiel de l'actualité, c'est avec Yann Effelé.
On l'apprend aujourd'hui, une conseillère principale d'éducation a été frappée par plusieurs élèves dans un collège de Toulouse jeudi. En milieu de matinée, dans le collège Stendhal, en zone REP+, la CPE est tombée au sol en tentant de s'interposer entre deux élèves. C'est à ce moment-là qu'elle a été frappée à coups de pied et de poing par plusieurs collégiens. Elle a porté plainte contre X et plusieurs professeurs de ce collège ont exercé leur droit de retrait. L'ouragan Fiona a touché terre sur la côte atlantique du Canada, déjà 500 000 foyers privés d'électricité. Les services météo se préparent à une tempête historique. Dans son passage dans les Caraïbes, Fiona a semé mort et destruction. Les autorités de la province de Nouvelle-Écosse demandent aux habitants de rester à l'intérieur et d'avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. Dernier jour avant les élections législatives en Italie, l'extrême droite espère une victoire historique. Giorgia Meloni, à la tête du parti Fratelli d'Italia, est donnée gagnante à près de 25% des intentions de vote.
L'épineuse question de l'accueil des déserteurs russes, alors que de nombreux Russes en âge d'être mobilisés par l'armée se présentent aux frontières de l'Union européenne, la question de leur accorder un statut de réfugié ou un visa humanitaire divise profondément en ce moment les États membres. Le débat est vif dans les chancelleries depuis cette annonce de Vladimir Poutine de mobilisation partielle. 300 000 hommes, chiffre peut-être sous-estimé, puisque certains disent près d'un million. Écoutez le sentiment de ces quelques Russes.
Quand Poutine a prononcé son discours, j'ai fait mon sac et je suis directement parti en Finlande. En Russie, nous n'avons pas de billet d'avion pour le moment. J'ai donc un visa Schengen et j'ai trouvé un vol pas cher d'Helsinki à Istanbul.
J'étais effrayé et j'ai cherché toutes les possibilités pour fuir.
Raphaël Steinville, il faut accueillir les déserteurs russes.
D'abord, il faut voir ce qu'ils fuient. Est-ce que ce sont des opposants à Vladimir Poutine? Est-ce que c'est juste des jeunes hommes qui essayent d'échapper à la mobilisation dont ils sont l'objet, mais sans être absolument des opposants à Poutine? Jusqu'à présent, en tout cas pour ces Russes, la guerre était une réalité finalement assez lointaine. C'est-à-dire qu'entre Moscou et la ligne de front, il y a plus de 1000 kilomètres. Donc tout d'un coup, cet appel à la mobilisation de Poutine réveille chez eux des envies de départ.
Oui. Opération spéciale a pris une tournure en Russie. Là.
Mais ce qui est certain, c'est que si on est logique et que à longueur de plateau, en tout cas me concernant, on explique que le droit d'asile est très largement dévoyé, je me vois mal de manière instantanée considérer que il faudrait accueillir à bras ouverts tous les Russes qui voudraient échapper à la mobilisation générale partielle décrétée par Vladimir Poutine. La vérité, c'est que ce ne sont pas des combattants pour la liberté. Aujourd'hui, en tant que tel, si on essaie d'en revenir à une situation un petit peu plus stricte du droit d'asile quel qu'il s'exprimait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est très loin de cette définition. Aujourd'hui, ce sont des jeunes hommes qui veulent vivre leur vie, échapper à la guerre, certes, mais qui ne sont en aucun cas des grands défenseurs de la liberté.
Voilà ce qu'a dit le Premier ministre letton. Il considère que de nombreux Russes qui fuient la Russie à cause de la mobilisation étaient d'accord pour tuer les Ukrainiens. Ils n'ont pas protesté à l'époque. Ce n'est pas juste de considérer qu'ils sont des objecteurs de conscience. Il y a d'importants risques de sécurité à les admettre. Et il existe de nombreux autres pays hors de l'Union européenne où ils peuvent aller. Alexandre Devecchio, L'Allemagne, par exemple, a dit oui, il faut les accueillir. La France doit-elle faire la même chose?
L'Allemagne décide unilatéralement en Europe, comme d'habitude, comme elle l'avait fait avec la première crise des réfugiés. Ça montre que quand il y a une décision importante européenne à prendre, nous, on dit toujours il faut une concertation. L'Allemagne a l'air de considérer qu'elle est patronne de l'Europe. Donc ça, c'est une parenthèse, mais c'est quand même intéressant sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Il faut accueillir tous ces hommes qui sont menacés de graves répressions, dit l'Allemagne.
Je suis d'accord avec Raphaël Steinville, pensant qu'il faut limiter au maximum le droit d'asile, le respecter, mais de manière stricte, c'est-à-dire défendre les combattants de la liberté, les opposants politiques. La plupart des déserteurs ne rentrent pas, je crois, dans ce cadre-là. Et puis, ils vont d'abord passer par des pays comme, effectivement, la Lettonie, la Pologne. Et c'est à eux de décider, parce que normalement, si on respecte la loi, on demande le droit d'asile dans le premier pays libre dans lequel on entre. Donc, ce serait plutôt que de demander l'avis des Allemands. Il faudrait demander, effectivement, l'avis de ces pays d'Europe centrale-là. Ensuite, on peut aussi penser tactiquement, j'ai dit mon opposition, mais tactiquement, vu qu'on est en guerre, que ces déserteurs peuvent être des outils de contre-propagande, d'une certaine manière, en montrant que les Russes fuient leur régime et viennent en Occident trouver plus de liberté. Donc ce n'est pas totalement absurde non plus dans un contexte de guerre des images, de guerre idéologique. Mais je crois que vu la situation de l'Europe sur l'immigration, il faut éviter d'envoyer des signes en matière de droit d'asile. Les signes qu'il faut envoyer, c'est justement plus de fermeté.
Alors qu'on découvre effectivement ces images qui datent d'un petit peu plus tôt dans l'après-midi, en ce samedi, de cette mobilisation contre cette opération spéciale, dixit Vladimir Poutine, contre cette guerre qui dure maintenant depuis plus de 8 mois. Il faut les accueillir, oui ou non, ces jeunes Russes qui souhaitent ne pas faire la guerre?
Il y avait 1 million environ d'hommes entre 20 et 40 ans en Russie, potentiellement donc concernés par cette réserve que veut constituer Vladimir Poutine. Ça fait beaucoup quand même, 20 millions d'hommes. Donc
pour l'instant, on a dit 300 000, même si apparemment il y a quand même de nombreux cartes qui prennent la direction effectivement de...
Il semblerait qu'il ait affiché le nombre de 300 000, mais qu'on aille au-delà. Donc il n'a pas dit exactement le chiffre qui serait mobilisé. On voit bien qu'il est en difficulté dans cette guerre, Vladimir Poutine. Et dans les cordes, il essaye de remobiliser ses troupes. Moi, je regardais ce que disait un constitutionnaliste sur cette question-là. Il disait que ça n'était pas déclaré en Russie comme une guerre. C'était déclaré comme une opération spéciale. Déclaré comme une opération spéciale, vous ne pouvez pas être considéré comme déserteur si vous refusez d'aller sur l'opération spéciale. Donc vous n'êtes pas en proie et en risque des 10 ans de prison qui vous sont infligés si vous désertez au moment d'une guerre. Donc, et d'ailleurs, Vladimir Poutine n'utilise plus trop le terme d'opération spéciale.
Ouais.
Il est prudent parce qu'on sent bien qu'il ne pourra pas actionner sur le plan juridique la loi sur ces gens qui refuseraient de fournir
Poutine, qui annonce que ce serait 10 ans de prison, vous dites que ce n'est pas dissuasif ou en tout cas que...
Je dis que ces 10 ans de prison sont passibles si on décrète qu'on est en guerre. Vladimir Poutine dit qu'il n'est pas en guerre, il dit que c'est une opération spéciale. Et les constitutionnalistes disent qu'en opération spéciale, on ne peut pas infliger ces 10 ans de prison à quelqu'un qui refuserait.
Mais vous avez raison, Karim, mais justement,
il faut avoir confiance en la justice.
Mais non, mais le principe non, mais même des référendums fait que ces territoires qui aujourd'hui votent et sont appelés à voter pour se rattacher à la Fédération de Russie, dès lors qu'ils appartiennent à cette grande Russie, ça devient non plus une opération spéciale, mais une guerre défensive et une guerre de territoire. Puisque c'est la Russie qui est.
Au moment où nous nous parlons, nous ne sommes pas toujours, selon Vladimir Poutine,
oui, mais,
en guerre.
Vous avez bien compris que...
Or, l'exil et l'exode a débuté, ça ne vous a pas échappé. Donc, moi, je pense que honnêtement, c'est compliqué, c'est très compliqué d'accueillir aujourd'hui ces déserteurs russes. On ne sait pas au nombre de combien, donc on ne sait pas réellement les motivations, ça a été dit par Raphaël. Est-ce qu'ils désertent pour ne pas aller en guerre? Est-ce qu'ils veulent fuir un régime plus globalement avec lequel ils sont en opposition? Donc, je veux dire, ça saurait. Je pense que là, c'est plutôt le fait d'être appelé pour fournir la réserve qui fait qu'ils veulent quitter la Russie. Sur cette base-là, c'est difficile quand même d'accorder...
Et devinez quoi, nouvelle réunion? On sait faire que ça, effectivement. Ce sera lundi du côté de Bruxelles avec un débat qui s'annonce forcément haut en couleur. vif, on l'aura compris.
Oui, mais l'Allemagne a déjà envoyé un signal, ce qui est quand même inquiétant. Elle envoie un signal à ses déserteurs, vous pouvez venir. Je pense que un chef de gouvernement français devrait dénoncer ce type de méthode. Ça avait été le cas pendant le nucléaire, où Angela Merkel avait décidé d'arrêter le nucléaire. Ensuite, pendant la crise des réfugiés, elle a décidé d'accueillir les migrants. Et elle met l'Europe devant le fait accompli. Je crois qu'elle n'est pas toute seule. Je suis d'accord avec Karim, mais je pense qu'il ne faut pas se fonder sur des argutis juridiques. Est-ce que c'est une guerre, pas une guerre? Ce qu'on aimerait, c'est une décision politique. C'est ce qu'on attend de l'Europe, d'un chef d'État français ou de chef d'État européen qui nous dise politiquement pourquoi on doit les accueillir ou pourquoi on ne peut pas les accueillir sans se réfugier derrière le droit. Je crois que ce serait une hypocrisie.
Non, mais la politique, elle n'est pas dénuée de juridique. Excuse-moi, mais tu t'appuies quand même sur une réalité juridique, souvent, parfois. Donc là, c'est le cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut dire à ces Russes, on ne peut pas vous accueillir pour telle et telle raison. Il faut argumenter quand même. Tu ne peux pas dire simplement, je ne veux pas vous accueillir parce que je n'ai pas mis de vous accueillir. Donc il faut argumenter.
Parce que vous n'êtes pas des réfugiés politiques,
moi, tout simplement. Oui, mais vous n'êtes pas des réfugiés politiques, ça s'argumente. Là, ce qui est gênant du côté de l'Allemagne, c'est que c'est un acte de plus qui est posé contre Vladimir Poutine. Or, on en a quand même posé beaucoup, hein, l'embargo économique, on a fourni des armes.
Je veux dire. Attendez, c'est peut-être pas fini parce que Biden promet des sanctions rapides
mais
et sévères.
Biden, ce n'est pas
en cas d'élection, et on sait qu'on
n'est pas obligé de le suivre.
Juste un mot,
parce que on le suit à chaque fois.
En ayant un peu l'esprit d'escalier, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Vladimir Poutine, pour la première fois, n'a peut-être pas le soutien de sa population. Les Russes étaient pro-Poutine parce qu'il a rétabli l'autorité, une forme de prospérité, de stabilité. Et aujourd'hui, il est synonyme d'instabilité. Et en plus, c'était celui qui réussit tout, c'est tout. Et il échoue. Donc je pense qu'il se passe quelque chose dans la société russe. Ce qui fait que les Américains, les Ukrainiens sont tentés finalement par le changement de régime. Je crois que c'est ce qui se dessine là, mais qui est, à mon sens, inquiétant, parce que je pense que ça va être extrêmement compliqué, même s'il se passe des choses dans la société russe, que ça peut radicaliser Vladimir Poutine et qu'il y a quand même des bombes nucléaires, et qu'ensuite, si, quand bien même il réussirait à ce changement de régime, on pourrait dire c'est un coup de maître, c'est super, on s'est débarrassé d'un tyran, c'est vrai, mais là on aurait une Russie profondément divisée. Il y a beaucoup de régions en Russie, et le risque c'est d'avoir une guerre civile, parce que pour l'instant on ne voit pas qui peut être le successeur de Vladimir Poutine. Et là, pour le coup, la situation migratoire, la situation géopolitique serait quand même catastrophique pour l'Europe. Donc il faut peut-être réfléchir à ça avant d'aller chercher une solution trop radicale dans
cette
guerre.
Allez, on passe de la Russie à l'Italie à présent avec ce week-end, vous le savez, à l'élection, week-end très important, les Transalpins. À vote, ce sera demain pour élire leur nouveau Parlement. Parmi les grands favoris, le parti de droite radicale, Fratelli d'Italia, avec à sa tête une certaine, on en a déjà parlé hier, effectivement, Giorgia Meloni. Écoutez le sentiment de ces Italiens.
Je ne sais pas si un gouvernement de centre-droit peut apporter des solutions à l'Italie, car les problèmes sont mondiaux. Il n'y a pas de solution magique, mais parfois il faut changer.
Je suis préoccupée par le fait que les sondages donnent la droite gagnante, en particulier Giorgia Meloni, parce que d'après ce qu'elle a déclaré sur les droits des femmes, sur les droits des jeunes, sur les droits en général, je prévois un retour en arrière d'au moins 50 ans.
Demain, je ne voterai pas parce qu'à mon avis, il n'y a personne de valable pour nous diriger aujourd'hui.
Droit des femmes, droit des homosexuels, droit des jeunes. Est-ce que l'Italie a de quoi s'inquiéter ou pas du tout? Raphaël Steinville.
Alors, je pense qu'au-delà de ces questions, il y a d'abord la volonté de peuple italien de s'exprimer. Aujourd'hui, ce que l'on voit, si on croit les sondages, la coalition des partis de droite, pour la première fois, serait en mesure de s'imposer très largement dans le sein des urnes.
Et l'électeur sur quatre, hein.
Voilà. Mais ce qui est marrant, même, c'est la traduction des Italiens. Oui, quand ils parlent du centre-droit, c'est vrai que nous, avec notre prisme, on aurait tendance à ajouter tous les qualificatifs les plus extrêmes pour qualifier cette coalition.
Extrême droite, ultra droite.
Exactement. Les Italiens, de manière beaucoup plus sereine, aujourd'hui s'apprête à confier les rênes du pays à Giorgia Meloni sans que ça fasse frémir un grand nombre d'entre eux. Alors pour certains, on comprend leur inquiétude, mais je pense pas que la campagne se fasse sur ces questions des droits des minorités. La campagne et le peut-être que le succès demain de cette coalition s'est fait essentiellement sur les questions d'immigration qui traversent, comme un certain nombre d'autres pays européens, la société italienne.
Est-ce qu'à droite, ici en France, on regarde les élections en Italie avec beaucoup d'intérêt, Karim Zeribi?
Mais ce sont nos voisins. C'est un pays européen qui compte. Évidemment qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Italie.
Il y a beaucoup de questions de l'union des droites ici en France.
Mais après, c'est encore un autre sujet. Moi, je suis partisan de ne pas être dans la surenchère que sur ces sujets-là. Mais excusez-moi, quand vous vous dites héritière de Mussolini, parler de droite ou de centre-droit, excusez-moi, c'est fini. On n'est pas Alice au pays des merveilles. Il faut qu'on arrête le monde des bisounours. Héritière de Mussolini. Mussolini, c'est celui qui a pactisé avec Hitler, quand même, en 1935. C'est pas n'importe qui. Elle dit du bien de Mussolini, elle se dit héritière, donc porteuse de ses idées. Ça s'appelle le fascisme, c'est le fondateur du fascisme.
Je trouve que Mussolini était un bon politicien.
Si on dit extrême droite, c'est pas une injure, hein, c'est pour une réalité.
C'est ce qu'elle a dit.
Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires, ou se cacher derrière son petit doigt. Donc la réalité, c'est que cette femme d'extrême droite qui se dit héritière de Mussolini porte pour autant des sujets qui sont en résonance dans la société italienne. Et il faut l'entendre et l'analyser. Ces sujets qui sont en résonance, c'est le retour de la souveraineté italienne, donc une forme de protectionnisme, parce que l'Union européenne semble ne pas être protectrice. Et on sent que tous les peuples européens sont traversés par ce doute, par cette crise. Et c'est ça, il faut qu'on se penche dessus. Ça veut dire qu'il nous faut une autre Europe. Cette Europe n'est pas satisfaisante. De la famille. On a eu le sentiment que c'était un sujet qui n'intéressait plus personne sur le plan politique. Et même chez nous, en France, la question de la famille, on nous parle de dégenrer les jeunes, on nous parle de si. Moi, je suis pour que chacun ait la liberté des mœurs. Mais la famille, ça a du sens. Après, la question de la gestion des flux migratoires, là aussi, qui ne doit pas être un sujet tabou. Mais on peut en parler sans être d'extrême droite. Or, elle est d'extrême droite, elle se dit héritière de Mussolini. C'est quand même un petit sujet.
Une élection qui inquiète en tout cas une certaine Ursula von der Leyen. Écoutez ce qu'elle dit. La réponse dans la foulée de Matteo Salvini. Je sais ce que vous allez dire, j'imagine, mon cher Alexandre.
Bah, je pense qu'elle est devancée. Elle va lui faire gagner des voix.
On les écoute.
Nous verrons si les choses vont dans la mauvaise direction. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne. Nous avons des instruments. Nous venons aussi d'avoir des élections en Suède. Mon approche est quel que soit le gouvernement élu démocratiquement, nous travaillons ensemble.
L'Italie mérite le respect. Les menaces, le chantage, trois jours avant le vote, par quelqu'un qui devrait représenter toute l'Europe et tous les Italiens, et qui dit plutôt que si les Italiens votent mal, ils sauront comment intervenir, comment nous arrêter, sont inacceptables. Ne polluez pas le vote des Italiens. Nous attendons des excuses à tout le peuple italien, de la part de la présidente de la Commission européenne, qui a utilisé des mots honteux.
Des excuses ou la démission, a demandé Matteo Salvini, effectivement, après les propos de Ursula von der Leyen. J'ai l'impression que ce sera ni l'un ni l'autre.
Qu'on soit d'accord ou pas avec Salvini, si c'était, je vous promets que si c'était les mélenchonistes qui étaient en tête en Italie, je penserais que von der Leyen n'est pas dans son rôle. C'est absolument antidémocratique. Il y a un peuple italien qui s'apprête à parler. Il faut respecter son vote. Si on veut nourrir la détestation de l'Europe, on ne peut pas mieux s'y prendre. Elle dit déjà qu'elle ne respectera pas le vote, qu'elle trouvera les moyens pour les contraindre. Je pense en plus que c'est un agent électoral.
Sous-entendu, elle mettra l'Italie à l'amende ?
Sous-entendu, oui. Donc je pense que c'est un agent électoral involontaire de Meloni, parce que je pense que la question de la souveraineté est très importante. Il y a la question de l'immigration et de l'identité. Mais pourquoi Meloni est en tête de la coalition, même devant Salvini ? Parce que c'est la seule qui a refusé de participer au gouvernement soi-disant d'union nationale, technocratique, voulu par l'Europe, dirigé par Mario Draghi. Donc son indépendance justement a été payante. Donc Ursula von der Leyen, même d'un point de vue stratégique, d'intelligence politique, en s'en prenant directement à elle, elle fait son jeu en quelque sorte. Ensuite, sur l'appartenance au fascisme de Meloni, c'est intéressant de faire un point historique. Certes, c'est une droite radicale, mais malgré tout, les Italiens n'ont pas forcément le même rapport au fascisme que nous. En réalité, le parti post-fasciste fasciste existe en Italie depuis l'après-guerre. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent du PCF français. C'était un parti qui restait communiste et qui avait peu à voir malgré tout avec le staliniste. Et c'est vrai que Meloni dit Mussolini a défendu l'intérêt national, mais elle dit il a eu tort sur les lois anti-juifs, il a eu tort sur l'autoritarisme et il a eu tort sur la collaboration avec Adolf Hitler. Donc c'est pour apporter un éclairage, et c'est pourquoi les Italiens sont assez sereins là-dessus, parce qu'en fait c'est un parti qui existe dans le paysage depuis longtemps.
Karim, 30 secondes, elle a eu tort, von der Leyen, c'est contre-productif, ces menaces?
Oui, parce que d'abord von der Leyen, elle est présidente de la Commission européenne, elle n'est pas présidente de l'Europe, elle a été élue par personne, donc c'est assez insupportable de voir des gens qui ont été désignés, donc se poser presque en représentant de tous les citoyens de l'Union européenne que nous sommes. Et trois, je pense que l'enjeu et le défi qui se présente à nous, je pense qu'elle ne l'a pas compris, c'est de concilier la dimension d'un État-nation avec sa souveraineté, avec la capacité d'avoir des accords d'association entre pays de l'Union européenne pour être plus fort sur ce continent. Mais c'est en aucun cas de diluer l'État-nation, donc dans un conglomérat qui serait, je dirais, sans direction, sans cap, qui servirait des intérêts particuliers et non l'intérêt général. Et je crois que les peuples européens ont envie d'un sursaut national qui est compatible avec la solidarité européenne.
Merci. Karim Zeribi, François Bersani, Raphaël Steinville et Alexandre Devecchio. Un grand merci à Samira également, à J, à toutes les équipes de CNews. Je pense aussi à Augustin Donadieu qui était sur place du côté de la porte de la Villette et d'Aubervilliers tout à l'heure sur cette mobilisation anti-crack. Vous restez avec nous, ça se dispute tout de suite. Eliott Deval.